Bien.
Après avoir sacrifié au quart d'heure poids de vin, je vais vous souhaiter la bienvenue à l'espace Mendès France. Notre président de séance arrive à l'instant de La Rochelle. Merci Yacine. Donc bienvenue à l'espace Mendès France pour cette journée qui communément s'appelle une journée d'études. Alors c'est un peu particulier parce que derrière le mot études, pour nous, le plus important, c'est que ce qui se passe à la tribune a autant d'importance que ce qui se passe dans la salle. Tout est enregistré. Et vos questions, questionnements, interrogations, commentaires sont ensuite, comme on dit en français, podcastés sur le site internet de l'espace Mendès France. Beaucoup écoutés d'ailleurs. Mais surtout, ce qui se passe dans cette salle depuis une quinzaine d'années, hein, des journées d'études, c'est 8 ou 9 par an, nous servent après soit à mettre en place une programmation, soit à partir de vos réflexions, de documenter des expositions, des temps forts, des rencontres. Titre indicatif, cette salle a accueilli pendant 4 ans un philosophe français qui s'appelle Edgar Morin, qui nous a permis, alors que ce n'était pas à la mode à l'époque, de travailler sur le développement durable. Et les résultats de ces discussions, dans cette salle, encore une fois, nous ont permis de mettre en œuvre depuis 12 ans toute une série d'outils. L'exposition de l'espace Mendès France sur le climat était à Marrakech à la COP22. Elle a été diffusée à un peu plus d'une centaine d'exemplaires l'an dernier. Donc ce travail a été commencé et construit dans cette salle. Donc vous êtes participant à une réflexion et tout ce que vous dites permet d'avancer. Alors depuis longtemps, l'espace Mendès France s'intéresse à la question du numérique et nous avons pris l'habitude autour du numérique d'aller bien sûr à la recherche de présentations, comme on l'a fait hier soir avec des tout jeunes, sur les technologies, tout ce qui sort en ce moment en termes de produits, mais surtout de s'interroger sur les usages. On a vu récemment à travers l'actualité que les réseaux sociaux étaient comme la langue d'Ésope, hein, le meilleur et le pire. Il s'est passé pas loin du pire à certains moments, et tout ça mérite réflexion. La semaine consacrée au numérique nous invite à nous interroger sur la question de connexion. Qu'est-ce qu'une vie connectée dans nos futurs? Et aujourd'hui, nous avons souhaité regarder ce qui se passait au niveau de deux champs, qui sont des champs importants de nos vies, celui de la vie dans la cité, à travers la question des objets connectés. Alors cette terminologie un peu auberge espagnole, on appelle ça les smart cities. Ça vient à la suite de programmes européens des années 2000, suite au sommet de Lisbonne, Intelligent Regions, les régions intelligentes, qu'est-ce que c'est? On sera amené à en reparler. Est-ce que par rapport à tout ça, le fait d'être connecté, d'être intégré à des bases de données personnelles fait avancer les choses? Et on vous poserait éventuellement la question du progrès par rapport à ça. Et cet après-midi, nous parlerons de santé. Tous et toutes ici dans cette salle, nous sommes amenés à un moment ou à un autre à intégrer nos problèmes de santé sur des questionnements. Facebook fait partie de ces questionnements et la santé connectée va être un champ d'investigation énorme. Puisque là aussi, c'est pareil, c'est une avancée fondamentale à travers ces connexions. Mais également, on peut se poser des questions de savoir qu'est-ce qu'on va faire des données personnelles que vous allez mettre de manière tout à fait ouverte et sans malice, comme on dit, sur la toile. Celles et ceux d'entre vous qui font du sport et qui suivent leurs performances, qui se filment pendant les performances, dont on retrouve un certain nombre d'éléments sur les sites internet. On a bien vu ces derniers temps qu'il y a eu quelques dérapages. Tout ça mérite réflexion. Voilà. Je finis en disant que pour nous, le numérique fait partie d'un élément de la culture scientifique en général. Cette maison, depuis de nombreuses années, a trouvé à travers sa programmation de quoi toucher une multitude de publics. Les plus jeunes en ce moment ont 3 ans, parce qu'il y a énormément de classes maternelles qui viennent ici, et les plus anciens ou la plus ancienne a 92 ans, puisque vous savez qu'on a ici un groupe qui s'appelle la clique des mamies connectées. La plus ancienne a 92 ans. Ce sont des personnes de plus de 77 ans qui se sont mis il y a un an et demi au numérique pour montrer que le numérique n'avait pas d'âge. Voilà, donc pour vous dire que le registre est large. Donc je voulais remercier les participants, participantes, remercier Yacine Gamri-Doudane qui va être notre président de séance ce matin, et puis vous remercier de votre présence. Aucune question n'est interdite ici. Tout est permis, vos réflexions, etc. Parce qu'encore une fois, on a besoin de vos avis, de vos approches, pour pouvoir constituer quelque chose qui nous permet d'avancer. Donc, Yacine, merci d'être là. Je vais te passer la parole. Merci d'avoir accepté d'être présent, venu de La Rochelle. La Rochelle, c'est loin et pas loin, mais bon, voilà. Et puis, merci à tous ceux qui ont permis à Anne Bonnefoy, ici présente, de faire de cette journée un vrai temps de réflexion. Nous continuerons demain avec la présentation par une société de développement qui s'est piquée au jeu des smart games liés à l'éducation. On a produit un outil pour la Louisiane, comment apprendre le français par les sciences. Et puis, ce week-end, nous aurons encore plein d'événements. Yacine, la parole est à toi et merci à toutes et à tous.
Merci beaucoup. Bon, tout d'abord, j'aimerais remercier l'espace Mendes France de m'avoir fait l'honneur de me proposer et de m'inviter à présider donc cette demi-journée. Merci beaucoup à Anne pour le travail qu'elle a réalisé. Donc, c'est principalement grâce au travail de Anne et le soutien de Thierry que cette matinée et je pense que même cette journée entière a été organisée. Donc, merci beaucoup à eux deux. Donc pour tout cela et pour les échanges intéressants qu'on a pu avoir, même s'ils étaient pas très nombreux et très courts. Donc à cause de mon indisponibilité principalement. Donc excusez-moi Anne et Thierry pour cela. Donc je me présente. Moi je suis Yacine Gamri-Doudan. Je suis enseignant chercheur à l'IUT La Rochelle, donc Université de La Rochelle. Je suis également directeur du laboratoire informatique images et interactions depuis peu. Et les objets connectés, on commence à s'y intéresser beaucoup, un peu partout. Et donc, La Rochelle, même si elle est vraiment un peu à l'extrême, s'y intéresse également depuis quelques années et s'intéresse beaucoup aux données que cela génère. Donc, le laboratoire de La Rochelle s'intéresse beaucoup aux données, à l'étude des données, la gestion des données massives et les objets connectés. C'est ce qui va engendrer le plus de données au fil du temps. On pense avoir plus de 50 milliards, certaines entreprises planchent sur plus de 50 milliards d'objets connectés en 2020. Donc des entreprises, des grands groupes comme Ericsson, Cisco, Nokia, etc. 50 milliards, c'est 7 objets connectés, 6,58 objets connectés par personne en 2020. Donc, il y aura un peu entre 7 et 8 milliards de personnes, d'après les estimations. Donc vous voyez, c'est énorme. La quantité de données qui peut être générée par ces objets connectés est également encore plus importante, car ils génèrent énormément de données continuellement. On parle de millisecondes, on ne parle même pas de secondes, voire même de microsecondes. Donc cela engendre des problématiques aussi bien au niveau technologique. Et donc on va avoir la première présentation donc par Rodolphe Vauzel, donc un spécialiste également des objets connectés à l'Université de Poitiers. Et donc, il va nous parler de l'aspect technologique et comment ces objets connectés, vont aussi rendre nos villes plus intelligentes. On parle également de villes intelligentes et les objets connectés, c'est un des 4 piliers de ces villes intelligentes. Il y en a d'autres. Ensuite, donc, on va avoir également un point de vue philosophique sur la question. Donc, avec Sarah Lamanda, donc, qui est également chargée de mission en philosophie pour l'atelier Internet lyonnais. Et pour finir, on va voir le point de vue juridique de cet aspect-là. Donc avec Nina Goss, qui est consultante juridique et en affaires politiques, qui va nous parler de quel danger cela peut apporter. C'est vrai qu'il faut avancer, il faut innover, mais cela également apporte des dangers. Et donc pour pouvoir continuer à avancer, il faut être conscient des dangers et également tenter de les éliminer. Donc je ne vais pas être beaucoup plus long, donc je vais passer immédiatement la parole donc au premier présentateur, donc professeur Rodolphe Vauzel de l'Université de Poitiers, laboratoire XLIM.
micro.
Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, je suis Rodolphe Vauzel, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Poitiers et membre d'un laboratoire qui s'appelle XLIM, qui est un laboratoire multisite entre l'Université de Poitiers et l'Université de Limoges. J'aurai l'occasion d'y revenir. Voilà. En attendant, je souhaite remercier à la fois le président de cette session, Yacine, et puis remercier effectivement l'Espace Mendès France et Anne en particulier pour l'organisation de cette journée. Voilà. Donc une fois que les problèmes techniques vont être à peu près résolus, ce qui me semble être en bonne voie, voilà. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, très bien. C'est parti. Lorsque le premier contact avec Anne a été pris, l'idée c'était d'intervenir sur les objets connectés et en particulier sur l'Internet des objets. Pourquoi on a souvent tendance à faire le lien entre les deux et globalement la problématique c'est autour de toutes ces questions, quels sont les enjeux, les conséquences. Et après discussion, il semblait intéressant de pouvoir faire quelque chose autour des villes intelligentes. Et en y réfléchissant, c'est un sujet qui en fait est extrêmement vaste. Je vais essayer de l'illustrer un petit peu au début, vous montrer plusieurs aspects de cette problématique. Je n'ai pas la prétention de les couvrir tous. Et puis ensuite, je vais faire un focus tout simplement sur un point particulier. J'ai récupéré une image qui me semble être un exemple possible pour illustrer ce concept de ville intelligente où vous voyez que globalement on retrouve l'architecture d'une ville avec son réseau de transport au niveau routier, avec des aspects liés à l'énergie. Forcément, il y a des questions d'arrivée d'électricité dans tous ces bâtiments. Mais on voit aussi un réseau qui superpose à tout cela, ce qu'on connaît jusqu'à présent, qui est finalement un réseau de transport de l'information aussi. Et l'enjeu, c'est de façon à pouvoir rendre, entre guillemets, les villes intelligentes, eh bien, il faut mesurer de la donnée, être capable de traiter de la donnée. Voilà. Donc ça suppose d'avoir un ensemble d'éléments d'un réseau de communication. Vous voyez ici quelques exemples. Je les trouve assez intéressants. On a ici un conteneur qui est équipé d'un capteur qui mesure finalement son taux de remplissage. Est-ce que le camion de ramassage des poubelles doit passer tous les jours, tous les deux jours, tous les trois jours? Bon. Il y a des dispositifs qu'on commence à voir maintenant arriver dans un certain nombre de villes. C'est identifier les places de stationnement qui vont être disponibles. Ça, on voit des projets pilotes, il y en a à Toulouse, mais il y en a dans d'autres villes, où les places de stationnement sont équipées d'un capteur. Sur Poitiers, il suffit de regarder ce qui se passe autour de la gare. Il y a quelques places qui sont équipées de ce dispositif-là, qui permettent de voir si les places sont occupées ou pas. Bon. On voit tout de suite l'intérêt. Plutôt que de tourner dans une ville comme Poitiers pour trouver une place, eh bien, on récupère sur son smartphone, avec une application, là où se situent les places disponibles. C'est un exemple. Ensuite, des lampadaires. Tout ce qui est éclairage. On voit des dispositifs qui sont en train de se déployer de façon assez massive en ce moment, de façon à optimiser l'éclairage. Bien évidemment, les plages horaires, c'est quelque chose d'assez simple à faire, mais l'intensité lumineuse, c'est un enjeu. Peut-être l'orientation du faisceau lumineux peut aussi être un enjeu. Ça peut se piloter mécaniquement, mais forcément, il faut derrière aussi des dispositifs électroniques et de pilotage, de ces dispositifs. Sur ces lampadaires, on peut aussi, bien évidemment, ça existe maintenant dans pas mal de villes, d'avoir tout ce qui est système de vidéosurveillance. Ça fait aussi partie, alors je ne sais pas si c'est de l'intelligence dans les villes, mais en tous les cas, c'est un constat, c'est un système qui se déploie. Ensuite, on voit des initiatives, par exemple, sur La Rochelle, où il y a du guidage quand on arrive dans la ville pour accéder au parking. Donc ça veut dire que derrière, il y a la gestion du flux de véhicules. Les transports collectifs doivent bien sûr, puisque si on pense transport collectif, on peut aussi penser intermodalité pour le transport. Donc comment on assure la gestion du trafic. Et puis derrière, après, il y a tout ce qui est plutôt, je dirais, associé à des applications de e-commerce qui peuvent se déployer. Je n'insisterai pas, c'est juste quelques focus. L'objectif étant de montrer que se plaque au réseau standard associé à une ville un réseau de communication. Ici, on retrouve une autre illustration qui est un peu plus pensée capteur, puisqu'il faut être capable de mesurer taux de remplissage d'un conteneur, il faut être capable de mesurer des présences, il faut être capable de mesurer la qualité de l'air, il faut être capable de mesurer la luminosité. Et derrière, il faut disposer de tout un tas de technologies qui vont permettre d'assurer la circulation de l'information, la collecte de l'information, et ensuite leur traitement dans un deuxième temps. Donc en y réfléchissant un petit peu, pour moi, la ville intelligente, c'est la convergence de plusieurs transitions. Transition numérique, c'est évident. Transition énergétique aussi, et puis forcément, transition environnementale. Et la liste n'est pas du tout exhaustive, mais on trouve, selon moi, au moins ces enjeux-là qui sont derrière, ces thématiques qui sont derrière. La question des smart grids. Qu'est-ce que ça veut dire, smart grid ? Eh bien, ce sont des réseaux électriques intelligents. Ça veut dire qu'à un réseau de transport et de distribution d'électricité, eh bien, on vient plaquer un réseau de transport de données et un système d'information qui va venir ensuite piloter le réseau. L'objectif étant, comme vous le savez sans doute, le stockage de l'électricité à grande échelle, c'est quelque chose qu'on sait peu ou pas faire. Donc il faut équilibrer en permanence la production d'électricité et la consommation d'électricité. Quand on a des sources de production d'électricité qui sont complètement, pilotables, contrôlables, c'est par exemple le cas du nucléaire, eh bien on sait planifier, on sait gérer. Je pourrais faire une petite parenthèse juste après. Par contre, l'enjeu, comme vous le savez, c'est de développer des énergies renouvelables. L'énergie renouvelable, prenons le solaire, prenons l'éolien, prenons l'hydrolien. Forcément, cette production d'électricité, elle dépend du vent, elle dépend de l'eau, elle dépend de la lumière. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas prévisible a priori. Donc, ça veut dire qu'il y a des fluctuations de la production. Et à l'autre bout, du côté consommation, vous pouvez constater, comme moi, le développement des véhicules électriques et qui a vocation à s'amplifier. Ça veut dire que derrière, il y a de nouvelles sources de consommation d'électricité. Vous entendez aussi tout ce qui relève des compteurs Linky, les fameux compteurs intelligents qui sont en train de se déployer. Bref, tout ça, c'est comment assurer cet équilibre constant entre la production d'électricité et la consommation d'électricité. C'est l'enjeu des smart grids, c'est à grande échelle. Mais on voit des initiatives à l'intérieur des villes qu'on appelle plutôt des micro-grids, c'est-à-dire des réseaux d'électricité à petite échelle. On parle d'éco-quartier aussi. Et l'objectif, c'est à l'échelle d'un quartier, voire à l'échelle d'un bâtiment, comment assurer cet équilibre énergétique. Donc là, c'est tout le pan, j'irai, énergie. On fait la connexion immédiatement avec tout ce qui relève du bâtiment intelligent et du bâtiment durable. Là, j'étais à l'échelle macro, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'un bâtiment. Eh bien, les enjeux sont du même type que ceux que j'ai évoqués, c'est-à-dire avoir... vous savez qu'il y a un plan important autour du bâtiment... pour améliorer son efficacité énergétique, pour avoir des bâtiments qui soient, si possible, même autonomes en énergie. Donc ça se décline, ça. Il y a un enjeu aussi, évidemment, autour de la sécurité. J'ai indiqué des lieux, des biens et des personnes pour couvrir l'ensemble des volets. Et vous entendez aussi parler régulièrement de tout ce qui va être cyberattaque. Et je fais une petite parenthèse sans que ce soit absolument pas mon domaine de compétence, mais avant les attaques sur les réseaux informatiques se faisaient à travers des PC, à travers des stations de calcul. Maintenant, ça commence. On commence à avoir des attaques qui se font à travers des objets connectés. Pourquoi ? Parce que quand on parle d'objets connectés, je l'ai évoqué tout à l'heure, on parle d'Internet des objets, c'est-à-dire qu'à un moment, on a une connexion Internet. Donc finalement, par un petit objet qu'on peut avoir sur soi, on peut remonter le réseau et accéder à des ressources beaucoup plus importantes. Donc ça, c'est tout ce qui est cyberattaque. Et au niveau national, il y a un pôle d'excellence qui est en train de se développer dans la région rennaise, où il y a de gros moyens qui sont mis sur cette question-là. Ensuite, mon point ici, c'est tout ce qui relève de la mobilité et de l'intermodalité. Et donc là, on voit que cette fois-ci, on joue sur la gestion du trafic de voitures et de, j'irais de marchandises aussi pour différents modes de transport. Et donc là, l'enjeu, c'est d'être capable de privilégier des modes de transport propres et efficaces, qui respectent à la fois des questions de qualité de service pour les usagers et en même temps d'efficacité énergétique. Et enfin, ce sont les applications. Il faut collecter de la donnée, puis ensuite, il faut la traiter. Ça veut dire que ça pose la question des données massives et de leur traitement. C'est ce qu'évoquait mon collègue Yacine en introduction. Mais aussi... Il y a un enjeu tout à fait important pour les collectivités en ce moment autour de l'open data, puisque finalement, pour développer des applications qui soient pertinentes pour les habitants d'une communauté urbaine, par exemple, eh bien, il faut mettre des données à disposition. Et donc, c'est la question de toutes ces données ouvertes et du modèle économique qui est derrière. Là, ça sort de mon champ de compétences, mais il faut vraiment avoir ça en tête. Ça fait clairement partie de la problématique aussi des villes intelligentes. Juste un petit focus sur la question de la mobilité. Les enjeux, c'est quoi ? C'est la gestion du trafic, c'est réduire les risques d'accident, c'est réduire l'impact environnemental, développer des nouveaux modes de transport, l'autopartage, les transports propres, etc. Ça veut donc dire que d'un point de vue technologique, eh bien, on se retrouve à avoir un ensemble de briques à l'intérieur d'une ville, et ces briques, de plus en plus, vont être équipées d'une fonction de communication. Le mobilier urbain, avant, c'était des affiches papier. Le mobilier urbain est en train de devenir connecté. Les panneaux de signalisation sont en train de devenir connectés, tout simplement pour favoriser la fluidité du trafic. Vous voyez toutes les pubs de voitures qui sortent en ce moment, ce sont des voitures connectées. Donc on voit bien que tous les dispositifs à l'intérieur d'une ville se transforment en dispositifs équipés d'une fonctionnalité de communication pour venir acquérir de la donnée et transporter de la donnée. Voilà quelques exemples. Si je reste sur le domaine des transports, puisque c'est quand même un des enjeux importants dans le domaine des villes, j'ai essayé d'identifier ici quelques challenges à la fois technologiques, mais sans oublier toute la question des usages et des problèmes, sociétaux et économiques que ça peut poser. Quand il s'agit de collecter de la donnée, eh bien, il faut être capable de développer des capteurs qui vont venir mesurer la donnée, la grandeur qui nous intéresse. Ça peut être de la qualité de l'air, donc un niveau de pollution. Ça peut être capable de détecter un flux de trafic, etc. Une fois que ces capteurs ont été développés, il faut être capable de les déployer sur le terrain et donc en tenant compte évidemment de toutes les contraintes environnementales qu'il peut y avoir. Une fois qu'on a ces capteurs, il faut développer les différents modes de communication qui vont permettre de transporter ces données qui vont avoir été mesurées. Évidemment, on veut que tout ça fonctionne tout le temps dans les meilleures conditions et n'importe où, et que ça soit bien évidemment complètement autonome et auto-adaptatif. Bref, ça doit se débrouiller tout seul. Et puis derrière, effectivement, tout ce qui est traitement de données, et derrière, de plus en plus, ces traitements de données pourront être, pour une partie, embarqués sur des dispositifs faible coût, basse consommation, etc., avant d'être effectivement traités de façon un peu plus macro sur des systèmes de plus grande taille, de plus grande disposant, de plus grandes ressources. Et puis, évidemment, derrière, les services, c'est donc la question du modèle économique, c'est-à-dire développer des technologies, oui, mais pour répondre à quels besoins et quels seront les clients. Voilà. Donc il y a vraiment tout ça. Et naturellement, ça fait la transition avec les questions d'objectifs économiques et sociétaux. On comprend très bien que, je ne sais pas si une communauté urbaine comme Poitiers veut développer ce genre d'équipement, la première question, c'est quel est le coût de déploiement de l'infrastructure ? Quelles vont être, les retombées positives, par exemple, en termes d'environnement ? Et puis, bien évidemment, la question des services à déployer et surtout aussi, sans oublier, la question de l'acceptabilité, cette transition numérique va aussi avoir des conséquences implicitement sur notre mode de vie et jusqu'où on va. Et là, ça pose pas mal de questions. Ce sera la dernière partie de mon intervention. Donc vous voyez que tout ça est extrêmement vaste. Donc moi, ce que j'ai choisi de faire, et c'était l'objectif, de se focaliser sur, en gros, l'Internet des objets, c'est-à-dire la dimension technologie qui va permettre d'acquérir ces données pour ensuite pouvoir les traiter. Et même si ce n'est pas dans le titre, je l'ai ajouté ici, quand on parle d'Internet des objets, finalement, on ne peut pas se séparer d'une autre notion qui est en train d'apparaître modestement dans le grand public, mais très fortement dans le monde de la R&D, ce sont les systèmes de cinquième génération. Bon, on a connu la troisième, la quatrième est en cours. La cinquième génération, son objectif est tout simplement la convergence de l'ensemble des dispositifs qui existent, la dimension interopérabilité de l'ensemble, et donc de façon à avoir quelque chose de plus transparent possible et pas changer de système à chaque fois qu'on veut changer de configuration ou de type de données à transmettre. Donc voilà le positionnement de mon exposé. Je vais essayer de suivre cette trame-là, puisque tout ça peut sembler assez nouveau, mais en fait ça s'inscrit dans la continuité. Donc je vais faire un petit peu d'histoire autour de ça. Le comment s'y retrouver me semble tout à fait important parce que quand on voit le nombre de normes ou de technologies ou de systèmes qui existent, on entend parler de Zigbee, on entend parler de Wi-Fi, de 2G, de 3G, de tous ces trucs-là, de Bluetooth évidemment. Voilà, essayons de s'y retrouver un petit peu, essayons de définir un peu des éléments communs à tous ces dispositifs, qu'est-ce qui les regroupe, qu'est-ce qui les distingue. Un petit point quand même sur comment ça marche, de façon bien évidemment vulgarisée. Prospective, j'en ai déjà fait un peu avant, je vais en refaire un tout petit peu ici, et puis derrière, je vais essayer de présenter un peu des éléments liés à la recherche autour de toutes ces questions et des exemples de projets sur lesquels nous travaillons pour illustrer un petit peu cette démarche-là. Et puis un dernier point sur au-delà de la technologie. Alors, cette frise, je l'aime bien, elle n'est pas de moi, c'est un collègue de Toulouse qui l'a faite. J'ai bien évidemment pas pour objectif de décrire tous les petits points et vous lire tout ce qui est en dessous. Mon objectif, il est simple, c'est juste vous donner quelques grands repères. 1865, un certain Maxwell, c'est un chercheur qui a élaboré des équations qui traduisent la façon dont les ondes électromagnétiques se propagent. Ça, c'est un point clé. Puisque tous les systèmes dont on parle reposent sur une onde électromagnétique qui vient porter une information, transporter une information. S'il n'y a pas d'onde, il n'y a pas de transport de l'information. Donc c'est ce monsieur Maxwell là, qui a élaboré le modèle. Ensuite, il y a un deuxième point qui est important, c'est autour de 1948, un autre chercheur qui s'appelle Shannon, qui lui a développé une théorie qui est la théorie de l'information. Ça veut dire qu'ici, savoir comment les ondes se propagent, mais ensuite, l'information, ce que l'on vient mesurer, à un moment ou à un autre, on va le transformer en une suite de 0 et de 1. Et à partir de là, comment élaborer des méthodes qui vont permettre de mettre en forme cette information-là, et finalement, jusqu'où on peut élaborer des limites théoriques pour pouvoir transporter de la donnée. Donc voilà, en termes de grands repères, si je puis dire, un peu fondamentaux, ce que l'on peut voir. Et puis autour, je vous laisse lire des points importants dans l'évolution des technologies, et donc tout ça pour faire comprendre que là, on est en 2013 sur la 4G à Toulouse, mais bien évidemment, ça continue, l'Internet des objets est ici, donc on est dans une continuité, voilà, et pas une rupture. On est une rupture dans les usages, dans le déploiement, mais dans les fondamentaux, on est dans une continuité. Alors, pour illustrer cette continuité, juste à travers ce que les plus expérimentés, pour ne pas dire âgés de cette salle, ont connu, ce sont des systèmes qui ont, là aussi, ça s'inscrit dans la continuité. On a vu des systèmes de première génération, en ce moment on est à la quatrième génération. Juste pour quelques repères, ces premiers systèmes-là, quand je dis les années 80, ça a même commencé juste après-guerre. Les premiers systèmes, c'était autour de la tour Eiffel. Et l'objectif, je ne sais pas si vous avez vu des films comme Le Corneau ou des choses comme ça, avec Bourville, ou dans sa superbe voiture, il a son gros téléphone. Voilà, on est là-dedans. Ce sont des systèmes qui sont des systèmes analogiques. Alors, ça veut dire quoi, analogique? Ça veut dire qu'on travaille sur des données qui sont transportées de façon continue en fonction du temps. D'accord ? Donc on n'est pas dans le numérique, on n'est pas dans une suite de 0 et de 1, on a des grandeurs qui varient de façon continue. Ça sert à quoi ? Uniquement à la voix. D'accord ? Le débit, c'est une donnée, une grandeur à laquelle vous êtes en général familiarisé, mais je tiens à la rappeler, c'est finalement la quantité d'informations qu'on peut le transmettre par seconde. Donc ça se traduit en bits par seconde. Là, c'était de la voix, donc peu, même si on parle beaucoup, peu de données à transmettre de façon rapide, donc en termes de bits par seconde. Deuxième génération, le saut est important. Ici, ce repère-là est essentiel, c'est qu'on passe dans le domaine du numérique. Ça veut dire que là, les données, la voix n'est plus transmise de façon continue, mais est transformée en un mode discret. On a une suite de 0 et de 1 à transmettre. Ça a quoi comme avantage ? Eh bien, ça permet de détecter et corriger des erreurs s'il y en a. Vous envoyez 0,1, vous retrouvez à l'arrivée 1,0, il y a eu un problème, il y a eu une erreur, vous l'identifiez et vous êtes capable potentiellement de la corriger. Voilà. Donc cette dimension numérique. Troisième repère important dans les années 2000, donc les systèmes de troisième génération, où là, c'est la convergence tout simplement des téléphones numériques et puis de l'Internet, pour faire de l'Internet et mobilité. Et donc ça, c'est vraiment le déclencheur de tout ce que l'on peut voir maintenant, puisqu'à partir du moment où on rejoint le monde de l'Internet et le monde de la mobilité, ça ouvre la porte à toutes les applications que l'on peut connaître. Ensuite, ça continue. 4G, c'est quoi ? Eh bien, l'objectif, c'est d'avoir plus de débit, plus d'efficacité, etc. etc. Donc, pouvoir transporter de nouveaux services et avec des quantités d'informations de plus en plus élevées. Et la cinquième génération que j'aurais pu mettre ici, vous l'avez compris, c'est d'arriver à uniformiser tout ça. Alors, cette diapo, elle est illisible, mais c'est fait à peu près exprès. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est juste ici l'échelle des temps. Et je me suis arrêté dans les années 2010, hein, je ne suis pas allé voir plus loin. C'est l'ensemble des normes qui se déploient au fil du temps. D'accord ? Donc vous voyez ce foisonnement et cette bascule là qui commence à apparaître autour de 2005. 2005, on va trouver tout ce qui relève du Wi-Fi, etc. Et là, c'est le grand boom. Et on voit ce foisonnement des normes avec toutes les questions qui se posent. La diapo, c'est un fabricant de puces électroniques qui permet de déployer ces systèmes-là. L'objectif, ce n'est pas de la lire non plus, celle-ci, c'est juste de regarder les tendances. Toujours la même échelle de temps. Ici, vous avez le temps nécessaire pour estimer les fonctions de chacun des dispositifs qui existent, au sens brique unitaire, au sens technologique du terme. Et vous pouvez voir que le temps nécessaire pour tester chacun des dispositifs ne cesse de décroître, alors que le nombre de systèmes, lui, cesse de croître. Et donc, à un moment, on voit bien une limite aussi pour les entreprises qui travaillent dans ce secteur-là, puisqu'ils doivent suivre ce déploiement des normes à une vitesse folle et quand même réussir à produire des dispositifs efficaces. Comment s'y retrouver ? Alors, vous avez vu le foisonnement, pas de normes universelles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un truc miracle qui fait tout. On voit des normes par type d'application, ça c'est un point important, et puis il y a des critères pour essayer finalement de choisir la bonne norme pour l'instant en fonction de l'application qu'on a. Il y a la portée, évidemment, si on veut transmettre à 1 mètre, 10 mètres ou 100 km, ça ne va pas être le même système. Il y a la question du débit, c'est-à-dire la quantité de données transmises par seconde. Mais il ne faut pas oublier non plus là-dedans, j'ai rajouté ici le mot « capacité » juste pour vous sensibiliser à un point qui me semble important, c'est que toutes ces informations, elles circulent en étant transportées par des ondes. C'est-à-dire ces ondes ont une certaine fréquence. Et maintenant, la fréquence est une donnée marchande qui se paie. Il suffit de regarder les licences des opérateurs qui se montent en milliards d'euros. Et donc derrière, il y a un enjeu majeur, c'est comme la fréquence est une ressource rare, il faut optimiser son utilisation. Et donc la grandeur qui permet de voir ça, c'est la capacité qui permet donc de transmettre un certain nombre de bits par seconde, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure avec le débit, mais en plus par hertz, c'est-à-dire par ressource élémentaire de fréquence. D'accord ? Donc ça, c'est un point important. L'autonomie énergétique, bien sûr, puisque si on veut parler d'un capteur sur un conteneur, vous êtes bien d'accord, vous n'allez pas relier votre conteneur à une prise de courant pour venir alimenter votre capteur. Donc ça veut dire que les capteurs doivent être autonomes. Et puis derrière, il y a la qualité de la transmission qui est effectivement un enjeu majeur, puisque si vous voulez transmettre une information sur des données qui vont être mesurées régulièrement, s'il y a une donnée de temps en temps qui est erronée, ce ne sera peut-être pas très grave. Par contre, si vous faites une mesure d'une donnée avec une période beaucoup plus grande et que chacune de ces mesures va être importante, il ne faut pas qu'elle soit erronée. Donc ça veut dire que la qualité de la transmission est importante. Voilà. Donc derrière, globalement, on est confronté à des questions autour de la performance du système au sens utilisateur, la qualité de service, et de plus en plus l'efficacité énergétique de ces solutions. Une diapo pour illustrer à chaque fois ces grandeurs, de façon à ce que vous les mesuriez un petit peu, puis que vous puissiez mettre quelques mots-clés autour de ça. En abscisse, on a ici la portée, une distance entre la source de l'information et la destination de l'information, c'est ce qu'on appelle la portée. Donc le mètre, le kilomètre, le monde. Et puis ici, vous avez la terminologie anglo-saxonne qui s'est déployée aussi dans ce monde-là, où lorsque vous avez du W, c'est du wireless, ça veut dire sans fil. EREA, bien évidemment, c'est la question de la dimension de la zone géographique, si je puis dire. Network veut dire réseau. Et ensuite, ces lettres-là correspondent soit à une échelle personnelle, on va dire à l'échelle d'une personne, par exemple, à une échelle plus locale, et là, ça va être la dizaine de mètres, la centaine de mètres, à l'échelle d'une ville. Et on retombe bien évidemment là sur la question des villes intelligentes, mais vous pouvez voir qu'une ville, c'est de grandes dimensions, mais ça se passe aussi à l'échelle d'une rue ou d'un quartier, ça se passe aussi à l'échelle d'un bâtiment et ça se passe aussi à l'échelle d'une personne. Il y a un exposé, par exemple, sur le citoyen connecté, il me semble, aujourd'hui. Voilà, donc on est complètement là-dedans. Et puis, bien évidemment, tout ça s'interconnecte entre villes, entre pays, donc là, on est à l'échelle mondiale. Donc là, vous avez quelques exemples de normes, je ne vais pas toutes les commenter, et ça vous permet comme ça de les repérer en fonction de leur portée. Voilà, donc contribuer à identifier les normes en fonction des applications. Une autre représentation, où là, cette fois-ci, c'est le lien entre la notion de portée, encore une fois, mais aussi on commence à introduire la notion de débit, c'est-à-dire de capacité de transmettre de la donnée en fonction du temps. Et là, vous retrouvez des dispositifs que vous connaissez, le Wi-Fi, on en a sur nos PC, on en a chez soi, etc. Le Bluetooth, le casque va être Bluetooth, on va avoir des oreillettes Bluetooth, on va avoir tous ces dispositifs-là, des souris Bluetooth, donc on est là-dessus. Tout ce qui est Zigbee, ça c'est quelque chose qui est assez peu connu du grand public, par contre qui est très connu des industriels, puisque tout ce qui va être capteur déployé à l'intérieur des entreprises, au sens surtout de la production, eh bien, vont s'appuyer sur des normes de type Zigbee, qui ont la caractéristique d'être très très bas débit, c'est-à-dire transmettre très très peu de données par seconde, mais par contre consommer très peu d'énergie. Et donc ça, c'est un des arguments tout à fait pertinents. J'arrive à cette question des débits, donc là encore une fois pour illustrer, toujours pareil, hein, mon objectif c'est pas de tout décrire, mais c'est juste vous montrer les critères et comment on classe les systèmes en fonction de ces critères. La portée en abscisse, le débit en ordonnée, vous voyez que le Wi-Fi qu'on connaît tous, eh bien, ça atteint des débits, on va dire, de l'ordre, alors tout ça c'est théorique, hein. J'aurais dû le dire. Entre la théorie et la pratique, là aussi, il y a souvent des différences. Mais théoriquement, le Wi-Fi, c'est quelques mégabits par seconde. Et les toutes dernières générations, l'objectif, c'est d'atteindre une centaine de mégabits par seconde. Le Bluetooth, tout ce qui est périphérique que j'évoquais, là, on est plutôt autour du méga. Et puis, il y a des applications, Zigbee que j'évoquais. Et là, les systèmes, par exemple, smartphones maintenant, sont équipés de cette norme-là. Qui est en gros de la transmission quasiment par contact. Vous voyez, donc là, on est sur une portée de 1 à 10 cm et des débits relativement faibles. Donc tout ça pour dire que les normes, on est capable de les identifier par performance. Cette diapo, là, elle a pour objectif de regarder le pendant de tout ça, c'est-à-dire la consommation énergétique. Je reviens sur mon conteneur de poubelle. Vous comprenez tout de suite que s'il faut changer la pile du dispositif toutes les semaines, ça ne va pas le faire. Voilà. Donc là, on voit la consommation associée à chacune de ces normes de façon assez schématique, symbolique. Et vous voyez bien évidemment que le Wi-Fi consomme le plus. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que c'est lui qui va, parmi cette famille, atteindre des portées les plus importantes et avoir de débits les plus importants. Donc forcément, il est plus gourmand en termes d'énergie, et donc c'est lui qui va consommer le plus. Maintenant, quand on dit que ça consomme, finalement, quelles sont les sources de consommation sur un dispositif de type objet connecté ? Voici un graphique pour illustrer. Un objet connecté, il doit capter, mesurer la grandeur physique, je sais pas, le niveau de gaz, par exemple. Ensuite, il doit traiter localement cette mesure de façon à la conditionner, je dirais un petit peu, à la mettre en forme d'une certaine façon. Et puis ensuite, il y a toute la partie transmission qui se fait là, c'est-à-dire la transmission de la donnée. Mais ce dispositif, il peut aussi en recevoir potentiellement. Et puis, pour savoir quand est-ce qu'il peut envoyer sa donnée, eh bien, il faut qu'il écoute. C'est-à-dire exactement comme nous, eh bien, en principe, quand on va prendre la parole, on s'assure qu'il n'y a pas quelqu'un qui parle en même temps. Eh bien, dans les objets connectés, et ça, c'est un enjeu majeur, si tous les objets connectés se mettent à parler en même temps, eh bien, forcément, ce sera le brouhaha et on n'arrivera pas à récupérer les données. Ça veut dire que les dispositifs, ils doivent écouter, savoir quand est-ce qu'il peut parler. Voilà. Toutes ces fonctions-là, c'est ça qui coûte cher en énergie. Voilà. Donc, juste pour que vous sentiez un petit peu ces éléments. Alors, là, derrière, ce qui compte, c'est de juste regarder la qualité de transmission en fonction de l'énergie consommée. D'accord ? Et ce que vous voyez, c'est que toutes les courbes, vous oubliez les petits symboles là qui sont là, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste les courbes qui sont là. Bien évidemment, plus l'énergie consommée est importante, plus le nombre d'erreurs que l'on commet est faible, ce qui est assez logique. D'accord ? Plus on met de puissance dans la transmission, a priori, moins il y aura d'erreurs, tout simplement. Donc tout ça, ça se calcule, ça se modélise, il y a des outils pour le faire, il y a des algorithmes pour évaluer ça. Et bien évidemment, quand on recale ça dans tout ce que j'ai dit avant, eh bien ça devient des objets de recherche, tout simplement. Dernier point qui peut sembler très abstrait, mais qui devient très concret dès qu'on le fait parler un tout petit peu, ces objets connectés, on va appeler ça ici un peu des nœuds communicants, puisque un objet peut transporter plusieurs capteurs, peut mesurer plusieurs données. Donc je vais appeler ça un objet connecté ou un nœud communicant. Eh bien, sa façon de communiquer, c'est selon trois modes. Soit chaque objet est uniquement, une source de données qu'il doit transmettre. Et il ne peut pas discuter avec ses homologues. Il discute uniquement avec un truc qui lui aussi peut recevoir de la donnée, mais qui est le collecteur de données. C'est-à-dire chaque objet vient uniquement transporter sa donnée en direction du collecteur. Ici, on voit que les objets ont la possibilité de communiquer entre eux, et ensuite, certains ont la possibilité de communiquer avec le collecteur de données. Là, on est sur d'autres solutions, beaucoup plus... Alors, ce sont des dispositifs qui, ce qu'on appelle maillés, qui permettent des échanges de données de façon beaucoup plus intense à l'intérieur de ce réseau, finalement, que constitue l'ensemble de ces objets connectés. Ça a quoi comme enjeu, ça, ou comme intérêt ? Eh bien, tout simplement, ça veut dire que si vous voulez consommer peu, c'est-à-dire si vous voulez que votre dispositif il soit autonome en énergie le plus possible, puisque plus il va transmettre loin, plus il va consommer, donc a priori, pour qu'il consomme peu, il faut transmettre à une distance relativement courte. Ça veut donc dire que dans ce cas-là, la distance entre le capteur et le collecteur de données doit être faible. À partir du moment où on rentre dans ce dispositif-là, eh bien, on peut acheminer par des sauts successifs la donnée jusqu'au collecteur. Chaque saut sera de courte distance. Par contre, le chemin total suivi par l'information pourrait être beaucoup plus long, tout en minimisant la consommation énergétique. Et là, c'est l'idée qui se prolonge. Donc vous voyez que derrière, il y a des enjeux importants dans le déploiement de ces systèmes-là pour respecter à la fois, une efficacité énergétique intéressante, mais il y a aussi tout un point que je n'ai pas mentionné jusqu'à présent et que je fais maintenant, c'est la question de la pollution électromagnétique. D'accord ? Puisque on a tous ces dispositifs qui transmettent beaucoup de données, beaucoup d'informations par voie électromagnétique, et donc derrière, tout ça crée des brouillages importants. Il y a toujours la question d'électrosensibilité qui gravite autour de ça. Bref, ça, ce sont des solutions technologiques qui permettent d'adresser ces différents enjeux. Alors, ce tableau, bien évidemment, est lisible aussi. C'est juste pour vous montrer qu'il existe des tableaux qui viennent répertorier pour chacune des normes toutes leurs caractéristiques en mettant des valeurs sur tout ça. Et donc, il existe des tableaux qui permettent de faire des choix. Là, je pense... Je vois des étudiants ou des lycéens, peut-être des collégiens dans la salle. Eh bien, quand vous êtes amené à déployer des projets, eh bien, sur quelle technologie on s'appuie pour déployer ça ? mais aussi, de la même façon, ça peut aider à dimensionner des projets de façon beaucoup plus globale par des entreprises ou par des collectivités aussi. Les éléments clés, là, je vais être extrêmement rapide là-dessus, qui sont complètement transversaux à tout ça. Les fréquences, j'en ai parlé. Voici une frise là, qui montre la concentration de tous les systèmes qu'on connaît en ce moment qui se déploient autour d'une fréquence qui est à peu près de 3 GHz. Donc quand je parlais de phénomènes de brouillage, d'interférence, tout se concentre là. Les enjeux en ce moment en termes de recherche, c'est de monter en fréquence, d'accord, de façon à atteindre des bandes de fréquences qui sont non occupées. Et pourquoi sont non occupées? Parce que jusqu'à présent, on ne disposait pas des technologies pour pouvoir acheminer ces données dans ces bandes de fréquences-là, sur des technologies qui étaient très complexes et qu'on ne savait pas maîtriser jusqu'à présent. Tout doucement, ça s'ouvre. Là, on a des systèmes qui fonctionnent dans le domaine des 60 GHz à peu près. Donc voilà, il y a un travail important pour travailler dans des bandes de fréquences qui n'étaient pas occupées, tout simplement parce qu'on ne savait pas le faire. Un petit point quand même sur... j'ai parlé de Maxwell et de la propagation des ondes. Il faut savoir que dans une pièce comme la nôtre, bon, ça c'est peut-être un point d'accès Wi-Fi là, si vous êtes connecté avec un PC sur du Wi-Fi, je sais pas, prenons le mien, imaginons que je sois connecté, il n'y a pas seulement une onde qui part d'ici et qui vient là en direct, et c'est qu'un seul trajet suivi par l'onde. En fait, l'onde, elle se propage dans toutes les directions, elle interagit avec l'environnement, les murs, les plafonds, nous, et puis au final, on arrive à recevoir une combinaison d'ondes, et ça rend les choses complexes. Et enfin, un tout petit point, c'est que quand je parlais des objets connectés et de leur capacité, leur nécessité d'écouter s'ils peuvent parler ou pas, eh bien, il existe des modes qu'on appelle d'accès au canal de transmission, ou pour simplifier, chaque communication va être affectée à une fréquence donnée, et ceci pour une durée qui est la durée totale de la communication. Ou bien une fréquence va être partagée en fonction du temps où on va mettre successivement plusieurs communications sans qu'on s'en rende compte. Lorsque vous utilisiez du GSM, eh bien, on est 8 communications utilisées sur une même fréquence, et en fait, chacune de ces communications occupe quelques microsecondes. Et que ça s'enchaîne. Utilisateur 1, quelques microsecondes, utilisateur 2, quelques microsecondes, mais sur la même ressource. Pourquoi on n'entendait pas les autres? Tout simplement parce que la question de l'échantillonnage, c'est-à-dire le basculement d'une communication à l'autre, est tellement rapide que notre oreille ne le perçoit pas. Exactement comme le cinéma à 25 images par seconde, vous êtes bien d'accord que les 25 images par seconde, on a l'impression d'un flot continu d'images. Tout simplement parce que notre capteur, nos yeux, n'est pas capable de percevoir cette discontinuité qui existe, et l'œil lisse tout. Eh bien, c'est pareil pour nos oreilles, et c'est ce qui est utilisé dans ces systèmes-là. Voilà, donc pour illustrer et vous sensibiliser à ces questions-là, quand est-ce que l'on accède finalement au support de transmission, quand est-ce qu'on peut parler? Yacine donnait des chiffres en termes de prospective. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est donc là en abscisse, vous avez le temps. En ordonnée, vous avez le nombre d'objets ou le nombre de communications. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que finalement, ce qui est en rouge, là, c'est le nombre de PC. Et ce nombre-là, il est relativement stable. Il ne se passe pas grand-chose. On voit ensuite, à partir des années 2000, quelque chose qui décolle de façon tout à fait importante sur les smartphones. Okay, tout ce qui relève des tablettes, ça monte, mais ce n'est pas extraordinaire. Et là, vous voyez une explosion ici qui est vraiment autour de l'Internet des objets, et donc les objets connectés. Et on est ici sur le véritable enjeu et le véritable défi avec toutes les applications qui vont être évoquées aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment un élément tout à fait majeur. Un point qui me semble important dans cette figure-là, dans cette diapositive, c'est ce qu'on appelle des communications machine to machine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, les communications d'aujourd'hui et de demain, de façon évidente, ce ne seront plus des communications entre humains, mais ce seront des communications entre machines au sens large. entre objets connectés, mais entre véhicules, entre smartphones, mais pas pour transmettre de la voix. Donc tout ça, ça va se déployer de façon tout à fait massive. Ici, quelques chiffres par pays ou par continent, juste pour fixer les idées. En tous les cas, retenez que l'Internet des objets, c'est avant tout des communications entre machines. Voilà. Alors, une diapositive ici que je trouve très intéressante en termes de prospective. Je vais la commenter de façon très, très macro. Hein. C'est juste pour fixer les idées. L'enjeu d'hier, à peu près, c'était d'augmenter les débits, c'est-à-dire pouvoir acheminer de plus en plus de données par seconde. D'accord ? L'enjeu d'aujourd'hui, c'est d'être capable de transformer le rôle des systèmes de communication. Pourquoi ? Parce que ça va être des communications de machine à machine. Et on voit l'enjeu de la ville intelligente. Eh bien, c'est justement de déployer des technologies pour les rendre adaptées à des enjeux sociétaux particuliers. Prenons ici le cas des villes intelligentes. Et ce qui commence à se faire en ce moment, mais là, on est vraiment sur de la recherche et de la recherche amont, c'est de s'appuyer finalement sur des modèles qu'on a tendance à appeler bio-inspirés, c'est-à-dire qui s'appuient sur la nature, sur la biologie. Et je dirais, quel est le plus beau réseau et le plus performant que celui du cerveau ? D'accord ? Donc avec des milliards de neurones qui échangent en permanence des données à travers des signaux électriques. Et vous avouerez que c'est exactement le principe d'un système de communication. Voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de réflexions et de travaux autour de ça. Et pour synthétiser un petit peu tout ça, dans les années 2000, ça a été de transformer le téléphone en un outil de transmission de données, pas seulement de voix. Dans les années 2010, eh bien, ça a été le développement des smartphones et toutes les applications. Et puis, aujourd'hui et demain, eh bien, c'est d'appliquer tout ça dans tous les champs de la société. Une petite illustration ici où on voit, je dirais, les impacts aussi bien sur la prévention de sinistres, tremblements de terre, etc. On voit des enjeux autour de la sécurité des lieux, des biens et des personnes. On voit bien évidemment tout ce qui est des enjeux autour de l'environnement, des enjeux autour de l'alimentation et de l'agriculture. Je ne sais pas si vous avez fait les curieux, mais si vous regardez maintenant les tracteurs qui sortent en ce moment, c'est mieux que des berlines haut de gamme en termes de technologie. Voilà. Donc avec des drones qui viennent surveiller l'évolution des cultures, savoir comment il faut mettre de l'engrais ou pas, s'il faut arroser ou pas, enfin voilà, on est là-dedans. Bien évidemment, tous les enjeux autour de la santé, mais ça, ce sera évoqué cet après-midi. Et puis voilà, je vous laisse décrire tout ça. C'est bon, il me reste encore un petit quart d'heure. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Oui. Donc juste pour vous donner quelques exemples de projets sur lesquels maintenant la recherche avance, et je vais parler de ce que je connais le moins mal, c'est-à-dire ce qui se fait dans mon labo. Donc on est dans un laboratoire, je suis membre d'un laboratoire qui s'appelle XLIM, qui est un laboratoire à cheval sur deux universités, plusieurs sites. On est à peu près 450 personnes. Et ce qui caractérise ce laboratoire, au-delà de publier, ce qui est quand même notre métier de fond, c'est aussi de développer des liens étroits avec le monde socio-économique. Et donc derrière, on tisse des liens étroits comment ? Bien évidemment à travers de la recherche partenariale, des projets qui mélangent le monde académique et le monde de l'entreprise, mais aussi des laboratoires communs. Ça, pour fixer les idées, c'est lorsque l'on a un partenariat extrêmement fort avec une entreprise. Eh bien, on crée un laboratoire entre les deux structures, qui est un laboratoire mixte, entre guillemets. Et vous voyez un rôle important dans la création de start-up, et donc, je dirais, sur tout ce qui relève de l'innovation. C'est un labo dont le cœur de métier se situe autour de trois actions. L'électronique, et c'est ce qui va nous intéresser directement dans nos contextes d'aujourd'hui. La photonique, c'est tout ce qui est fibre optique et laser. Et évidemment... derrière, les questions de modélisation, d'informatique, y compris appliquées à l'image, et derrière, les enjeux sociétaux adressés. Et vous voyez que, forcément, il y a dans ces challenges eh bien, tout ce qui relève des objets communicants autonomes. Voilà. Dans ce contexte-là, il y a, le laboratoire est structuré en, en axes thématiques. Et parmi ces axes, il y en a un que j'anime autour des systèmes et des réseaux intelligents. Donc on est un groupe de recherche à peu près d'une soixantaine de personnes. Et notre cœur de métier, eh bien, c'est de s'intéresser aux transmissions sans fil d'informations. Donc vous comprenez que les objets connectés, c'est au cœur de nos préoccupations. Et l'objectif, c'est pour nous de développer des protocoles de communication, des moyens de transmettre de la donnée de façon efficace, compte tenu de tout ce que je viens d'évoquer comme contrainte. Et ce qui fait notre caractéristique et ce à quoi je tiens tout particulièrement, c'est une vision finalement interdisciplinaire où quand on veut parler d'objets connectés, et je ne parle pas du traitement de ces données, mais je parle du transport de ces données, eh bien on a besoin d'avoir des compétences sur la façon dont les ondes électromagnétiques se propagent. On a besoin d'avoir des compétences sur ce que j'ai appelé ici transmission numérique de l'information, c'est-à-dire comment on va être capable de transporter les 0 et les 1. Et donc là, c'est de la théorie de l'information. Et puis bien évidemment, derrière, il va falloir être capable de déployer des systèmes réels pour faire des démonstrateurs, c'est-à-dire sous toute la partie circuit électronique, et je dirais électronique embarquée, ce qu'on trouve tous dans un smartphone, par exemple, ou qu'on retrouve dans un objet connecté. Quelques projets, là, ça va aller très vite. Ici, une illustration sur de la transmission de vidéos dans un milieu urbain, où vous voyez ici un émetteur d'un système. Tout ce qui est en rouge, c'est une vue de dessus de bâtiment. Et vous avez un récepteur qui se déplace à pied ou dans un véhicule. Et en fait, ce petit point bleu qui est ici, c'est le petit point rouge qui se déplace là. Vous avez quoi ici? Vous avez la distance parcourue. Et là, vous avez le niveau de puissance reçue du signal. D'accord? Ce que vous recevez, si vous regardez votre smartphone, vous avez des petites barres. Eh bien, en gros, c'est cette idée-là. Vous pouvez remarquer que... je le relance. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en fonction, en fonction du déplacement... Vous n'avez plus rien voir, en fait. Voilà, 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 en principe. Voilà. En fonction du déplacement, vous avez une qualité de signal qui varie, une qualité de puissance reçue qui varie, et forcément, vous avez une qualité de l'information acheminée qui va varier. Et nous, notre rôle, c'est d'être capable de développer différentes technologies, différentes solutions qui vont permettre d'avoir la meilleure qualité de la vidéo transmise, quelles que soient les conditions, pour faire simple. Ici, une petite illustration où là, on est vraiment objet connecté en ville et objet connecté embarqué. Vous avez ici un ensemble de systèmes communicants qui se déplacent. Ça peut être des piétons, ça peut être des voitures, ça peut être ce que vous voulez. L'objectif, c'est de transmettre la donnée acquise par ce nœud-là jusqu'à celui-ci. Et bien évidemment, tous ces nœuds se déplacent, vont subir des conditions de transmission différentes. Et l'enjeu, c'est d'être capable de trouver le meilleur chemin possible entre la source de l'information et la destination de l'information en minimisant la puissance consommée et en minimisant la pollution électromagnétique. Donc ça veut dire qu'au lieu de le faire en un coup, si je puis dire, eh bien, on va le faire par des nœuds intermédiaires de façon à optimiser le système en termes de consommation et de pollution électromagnétique. Pour faire tout ça, on a besoin de faire des mesures, évidemment. Donc on travaille sur des véhicules que l'on vient équiper de systèmes de mesure, de qualité de transmission radio, et on obtient des courbes que je ne vais pas commenter, mais on obtient des courbes, voilà, qu'on analyse, et à partir de là, on essaie de définir des modèles. Un petit point sur lequel j'ai envie de passer 10 secondes, et ça, c'est une action que l'on a avec des collègues du monde du handicap, où quand on parle de villes connectées, il n'y a pas que des objets connectés qui envoient des données de machine à machine, mais il y a aussi des enjeux autour de l'accès à la donnée et la présentation de ces données, et en particulier pour des publics qui vont avoir des difficultés. Prenons le cas de personnes présentant des handicaps variés, ça peut être des dys, ça peut être des dyslexiques qui vont avoir des difficultés à lire certaines façons d'écrire. Bien évidemment, on peut avoir des personnes qui souffrent de handicap sensoriel, etc. Et donc derrière, c'est comment présenter la donnée de façon pertinente. J'en dis pas plus, mais c'est un enjeu tout à fait important. Des applications dans le domaine du déploiement de réseaux à l'intérieur des bâtiments pour pouvoir collecter de la donnée, cette fois-ci à l'échelle d'un bâtiment, comment faire. Des technologies complètement innovantes où jusqu'à présent, je vous ai parlé de beaucoup de radios et d'ondes électromagnétiques. mais je vous ai aussi parlé de pollution électromagnétique, je vous ai aussi parlé de brouillage. Eh bien, on travaille en ce moment sur des technologies alternatives qui s'appuient sur la lumière, où une ampoule ne sera pas seulement un moyen d'éclairer, mais ce sera aussi un moyen d'acheminer de la donnée. Donc là, il y a des actions dans ce contexte-là. Des actions qui sont aussi à l'échelle du corps, c'est-à-dire comment transmettre de la donnée sur un réseau en deux capteurs portés sur le corps. On fait des choses tout à fait semblables dans le contexte de l'alimentation électrique des villes, où là on est dans les postes haute tension, et comment, là encore une fois, déployer des objets connectés dans les postes haute tension. Je passe là-dessus. Et enfin, une diapositive que j'aime bien, donc au-delà de la petite illustration, je vais passer assez vite là-dessus en restant juste sur le principe. Pour l'instant, j'ai toujours parlé d'ondes électromagnétiques comme finalement un atout, parce que ça permet de transmettre de la donnée, mais aussi une contrainte parce que ça brouille. Eh bien, il y a aussi un moyen d'utiliser ça pour rendre les capteurs autonomes en énergie. Eh bien, il faut avoir des batteries rechargeables. On sait les recharger à partir du solaire, à partir de la lumière, du photovoltaïque. Mais ce qu'on est en train de faire aussi en ce moment dans les labos, c'est d'utiliser les ondes électromagnétiques comme porteuses d'énergie et potentiellement comme capacité à recharger des batteries de capteurs. Donc vous voyez qu'on bénéficie de l'énergie électromagnétique ambiante pour venir recharger des capteurs. Enfin, pour terminer, peut-être, moi, il y a quelque chose auquel je tiens beaucoup. C'est un petit peu ce triplique-là où il ne faut pas croire que dans un labo, on est complètement déconnecté de la réalité et puis qu'on travaille sur des grosses équations et qu'on développe des logiciels et qu'on va chercher le dixième de décibels derrière la virgule ou la précision au millionième près. C'est vrai dans certains cas, mais pas que. Et ce qui vraiment est important, c'est qu'en ce moment, je vais parler pour moi, dans le contexte dans lequel on est, eh bien, toutes ces nouvelles problématiques sociétales, finalement, génèrent des vrais verrous scientifiques, des vraies contraintes nouvelles, qui conduisent à adapter nos cœurs de compétences, les repenser pour ça, et finalement, toutes ces contraintes-là, elles génèrent de nouvelles problématiques de recherche. D'accord ? Et donc, on fait de la production de compétences. Et bien évidemment, autour de tout ça, eh bien, on a aussi un rôle de formation. Je suis enseignant-chercheur comme d'autres collègues dans cette salle-là. Et finalement, tout ça, c'est un support de formation, aussi bien formation par la recherche, mais je dirais aussi pour de niveaux inférieurs en termes de niveau de qualification, ou tout au moins en termes de stages et de projets au cours de la formation, sans parler forcément de recherche. Eh bien, tout ça constitue des projets tout à fait intéressants. Voilà, je resterai juste après sur cette question-là. Au-delà de la technologie, des questions d'usage, d'acceptabilité, de protection des données, d'éthique. Hein, je crois que pour faire le lien avec ce qui avait été dit au début, toutes ces données-là collectées, eh bien, elles sont stockées et ensuite traitées. Il y a des enjeux qui dépassent le scientifique que je suis, mais aussi il y a des enjeux extrêmement politiques. Où sont stockées les données ? Le cloud, c'est formidable, mais les données, elles sont où ? Voilà, on en fait quoi, etc. Et puis, ce petit exemple. Ce que je trouve assez extraordinaire, et c'est là qu'on rejoint la question de l'analyse de grandes masses de données, c'est que finalement, on collecte des données qui peuvent sembler complètement décorrélées, mais lorsqu'on les met ensemble, on est capable de leur donner du sens, et un sens important. Juste une illustration. Avec tout ce que je vous ai raconté, vous avez bien compris que plus je transmets de la donnée, plus je vais consommer. Bon. Parallèlement à ça, qu'est-ce que c'est pratique d'avoir un accéléromètre dans son smartphone pour savoir quel est le niveau d'activité physique que je fais. Puis en plus, c'est super pratique d'avoir une application GPS qui me permet de me repérer n'importe où, n'importe quand. Mais quand je croise ça, ben ça veut dire qu'à tout moment, on sait où je suis, on sait ce que je fais, on sait mon activité en termes de transmission de données. Voilà, juste pour ouvrir un petit peu le débat autour de tout ça. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, Rodolphe, pour cette excellente présentation. Donc on va passer peut-être quelques minutes à des questions. Y a-t-il des questions dans la salle ? La première est toujours la plus difficile. On a un candidat, parfait.
Merci beaucoup pour votre présentation. Donc Alexandre Zollinger, de la faculté de droit, j'avais une question assez bête et néophyte de définition de ce qu'on entend par objet connecté, Internet des objets. Selon vos diapositives, j'ai quand même l'impression, ma manière de le comprendre, c'était une nouvelle génération, qu'on était en train de parler d'objets qui communiquaient les uns avec les autres. Et pour moi, ça exclut ce qui est interface, ordinateur portable, simple. De quelle définition vous partez quand vous définissez? Il y avait une diapositive où, par exemple, il y avait le nombre d'augmentations d'ordinateurs, le nombre de téléphones portables, et l'Internet des objets, les objets connectés étaient dans une catégorie à part. Donc, quelle définition on a pour identifier un peu tout ça?
Waouh. c'est une excellente question. En fait, il y a plusieurs définitions possibles autour de ça. Moi, ce que j'aurais envie de présenter comme définition, ce sont finalement des entités ou des dispositifs qui sont équipés d'une fonctionnalité de communication. Voilà. Qui présentent une autonomie. Voilà. Et un certain fonctionnement autonome. Voilà. C'est pour ça qu'à plusieurs reprises, j'ai parlé de communication entre machines. On peut imaginer des communications entre deux PC qui se font de façon tout à fait autonome, d'accord ? Mais là, dans le graphique que je présentais auquel vous faites allusion, la différenciation, c'est plutôt celle-là, c'est-à-dire des nouveaux dispositifs, au-delà du PC que l'on connaît tous, qui vont avoir une fonctionnalité de communication. Et quand on parle d'objets connectés à plusieurs reprises, et d'ailleurs c'est l'objet de mon exposé, l'intitulé de mon exposé, c'est l'Internet des objets, puisque ces dispositifs-là, directement ou indirectement, ont un accès à Internet. Voilà. Donc voilà une définition possible. J'ai le même type de question dans d'autres contextes autour de la cinquième génération des systèmes. La 5G, c'est quoi? Ma réponse, c'est tout. ça veut dire que ça a vocation à y compris intégrer le concept d'Internet des objets. Voilà. Mais en fait, mon sentiment, c'est que chacun a un petit peu sa fenêtre pour donner sa définition. Moi, je pense que j'ai une fenêtre qui est finalement très basée sur, j'irais sur mon cœur de métier, quoi, finalement, c'est-à-dire sur la façon dont ces systèmes-là vont se débrouiller pour transmettre de la donnée. Je suis sûr que les utilisateurs de ces technologies-là auront certainement une autre vision. Voilà, donc une réponse de Normand, quoi. Désolé.
Je vais profiter de la proximité du micro. Donc, je suis David Sinas du cluster Ecohabitat. Donc, nous, on est sur le domaine de la construction. Donc, très content de voir que le domaine du bâtiment, de la ville durable et de l'environnement était très présent dans votre présentation.
Essayez d'aller à votre journée le 6.
Mais voilà, merci. On se renvoie la balle. Donc effectivement, un des sujets, bien sûr, nous, outre l'environnement, en ce moment, dans le réseau, le sujet du numérique est extrêmement important. Je trouve que on a eu une réflexion un petit peu large il n'y a pas longtemps, c'est que c'est vrai que le numérique va infuser... modifier, voire révolutionner un certain nombre de domaines. On a l'impression que ça va être tous les domaines. Moi, je me pose la question de la temporalité, surtout par rapport à votre présentation qui m'éclaire au niveau technique, notamment. Mais il n'y a pas que la temporalité liée aux technologies, mais la temporalité liée aux usages également. Alors, bien sûr, c'est pour ça que je voulais parler du bâtiment, parce que le bâtiment est un domaine à la fois où il y a eu beaucoup de révolutions, notamment avec récemment les réglementations environnementales, et je vous annonce qu'il y en aura d'autres pour 2020 qui vont aller plus loin sur le domaine de la performance environnementale, non plus que énergétique. Mais sur le domaine du numérique, on a un axe de travail dédié à celui-là. On se pose des questions sur comment y aller, c'est-à-dire que la temporalité, à la fois, il y a des choses qui vont très très vite, oui, notamment sur la ville numérique, oui, sur la notion de maquette numérique, le BIM, ça a été quelque chose qui a mis du temps, et puis maintenant ça explose complètement en ce moment. Donc les acteurs, pour la formation, pour l'appréhension, pour les méthodologies, c'est un petit peu compliqué. Puis nous, au cluster, en ce moment, cluster Ecohabitat, on est en train de réfléchir justement sur la notion d'objet connecté, parce que c'est un peu innovant, et là on se pose énormément de questions questions, notamment au niveau des usages, parce que on se dit, est-ce qu'il faut y aller ou est-ce qu'il faut attendre un petit peu? La donnée, elle est produite soit par le petit capteur, soit par quelque chose qui avait rien à voir et qui peut quand même fournir la donnée intéressante. On va donner un exemple. On a travaillé avec le SPN sur ça. C'est, on se dit, on va piloter des chaudières, par exemple. On se dit, bon, bah, on est sur un bâtiment qui est peut-être pas archi isolé, par exemple. Donc, en gros, une hypothèse, on se dit, on ne va pas le chauffer tant qu'on n'est pas là. Voilà. Donc, soit on fait une programmation, sauf qu'aujourd'hui, avec les usages qu'on a aujourd'hui, on peut se dire, bah non, je suis libre d'aller et de venir, de rentrer plus tard, de faire autre chose. Donc, je ne suis pas forcément sûr de comment je vais utiliser mon bâtiment et à quelle heure je vais rentrer. En revanche, on se dit que si, avec mon smartphone, je me dirige vers chez moi à une heure, voilà, donc on peut se dire qu'il interprète ça comme, finalement, allume la chaudière avant que je range. Bon, c'est un exemple. C'est peut-être pas comme ça qu'il faut le programmer, mais en gros l'idée c'est justement celle que vous expliquiez tout à l'heure, c'est celle des objets qui sont pas forcément dédiés et qui vont communiquer ensemble. Donc voilà, il y a des choses qui sont très intéressantes, mais en même temps, donc sur la temporalité, c'est aussi nous aujourd'hui l'acceptabilité en termes d'usage. On sait que c'est, il y a des choses qui rentrent très très vite, notamment sur au niveau personnel, mais au niveau professionnel on est peut-être plus prudent. Et juste pour terminer, vous parliez du niveau politique qui est très, notamment sur Poitiers, il y a une notion en fait d'open data qui est lancée. Hein, voilà. Donc ça c'est très intéressant. Mais encore une fois, les technologies étant se modifiant très très vite avec une notion de norme, une décision politique doit être sur le long terme. Donc à un moment donné, engager des décisions d'investissement sur des technologies qui seront obsolètes dans les 3 ans ou dans les 4 ans, voilà, c'est voilà. Je voulais un peu qu'on fasse un peu la transition sur cette notion de temporalité.
Alors je vais enfin, c'est une question avec beaucoup de facettes. Je pense que, bon, premièrement, en tant que, allez, je vais me placer en tant qu'enseignant-chercheur. J'ai fait une présentation qui était plutôt orientée recherche, activité de recherche. Pour moi, là-dedans, les laboratoires et les universités au sens large ont vocation à, en principe, accompagner, aider, éclairer la prise de décision politique qui s'inscrit sur le long terme. Ça veut dire que quand je présente mes petits tableaux là, pour moi, c'est juste pour donner des clés de choix de technologie, de leur durée et de leur capacité. Donc vraiment un œil pour apporter de l'expertise dans un choix politique. Donc ça, c'est un premier niveau. Un autre niveau, il y a, je ne sais plus, quelques mois, je faisais une présentation sur ces objets connectés. Qui était plutôt dans le contexte, finalement, de la domotique, au sens large. Et c'était, j'ai eu un échange extrêmement intéressant avec des artisans. Une profession qui a vocation à se développer sont les domoticiens. Voilà. Et donc, derrière, ces artisans-là, bon, au départ, sont des électriciens ou des chauffagistes. Ou, voilà. Et donc, derrière, c'est comment... Ils montent en compétences, comment ils s'approprient ces techniques-là. Et donc, c'est la question de la formation. Donc là, la formation des professionnels, parce que quand on parle de tout ça, il faut que ça existe, il faut qu'il y ait des clients, et donc il faut qu'ils y voient un intérêt, et donc les applications et les usages et l'acceptabilité, c'est ce que vous avez dit à un moment. Et puis au beau milieu, il faut installer ces technologies-là, quoi. Et donc là, il y a tout un enjeu, je pense, autour de la formation, qui est vraiment très, très important. Enfin, donc, sur la question des usages, on voit malgré tout, je dirais, des opérations marketing puissantes, quoi, de grosses entreprises dans le domaine de la domotique pour essayer de susciter le besoin et déployer des projets. Donc on sent bien que les choses se mettent en place. Les labos, je dirais, sont à peu près prêts. Les technologies sont relativement matures. Il y a certains types de populations qui sont prêtes à s'emparer de ces technologies-là. Et il y a tout un enjeu autour des maintiens de personnes à domicile. Enfin bon, je pense que Patrick en parlera cet après-midi. C'est considérable. Mais au milieu, je pense qu'il y a un enjeu aussi de formation sur le court, moyen, long terme. C'est-à-dire de la formation de professionnels en mesure de déployer des bâtiments, mais de déployer des dispositifs pardon, dans les bâtiments, mais aussi de la formation, je dirais, au niveau Bac plus 2, Bac plus 5, parce que derrière, il y a des vrais problèmes technologiques de haut niveau pour déployer ces systèmes, pour faire de la... J'irai des recommandations dans le déploiement pour faire des règles de déploiement de ces dispositifs. Quand on est à l'échelle d'une maison, c'est un enjeu. Quand on est à l'échelle d'un grand bâtiment, c'en est un autre. Voilà. Et enfin, et je terminerai là-dessus, entre un bâtiment existant qui est en phase de rénovation pour respecter au plus les normes et un bâtiment nouveau en construction, là, c'est, à mon sens, un autre enjeu aussi, quoi. Voilà. Pour terminer, d'un point de vue académique, avec les enjeux derrière socio-économiques qu'il y a derrière, il y a deux programmes qui sont tout à fait structurants au niveau de l'ancienne région Poitou-Charentes. Il y a ce qu'on appelle les contrats de projet État-Région et des fonds européens derrière qu'on peut aller chercher sur ces dispositifs-là. Pour moi, il y a deux programmes sur six qui sont complètement complémentaires et en ligne avec ce que vous évoquez. C'est d'une part le programme numérique qui travaille sur forcément toute cette dimension-là et je coordonne tout un paquet autour des objets connectés. Et à côté de ça, il y a un programme bâtiment et bâtiment durable où on voit tout l'intérêt de rapprocher numérique et bâtiment pour répondre à des enjeux comme ça. Voilà. Donc, et derrière, pour aller chercher des financements à l'Europe, il faut des entreprises partenaires, avec des laboratoires. Je lance un appel s'il y a des entreprises.
Oui, on continue. Donc, vous pouvez vous installer. Donc, pour compléter, dans le cadre du programme bâtiment durable, il y a un axe à l'intérieur, il y a des actions numériques, sociétaux, et bâtiments, justement, qui permettent de faire le lien entre les deux programmes, en effet. Je fais partie de cet axe, personnellement, et on interagit aussi avec Rodolphe. Donc, pour les autres questions, je vous invite à un petit peu patienter jusqu'à midi pour poser plus dans le cadre d'une table ronde de conclusion, on va dire. On va faire un léger écart au programme. On a inversé deux présentations. Donc, pour être sûr que Madame Gosse puisse avoir son train au cas où on déborderait un petit peu. Donc, la présentation qui vient là aussi fait une très belle suite par rapport au Big Brother que nous a affiché Rodolphe sur la fin de sa présentation. Et l'intitulé est « Je suis connecté, suis-je en danger ?» Donc, Nina Gosse fait partie de NPA Conseil. Elle est consultante juridique et affaires publiques. Donc, elle va nous parler de cela.
Merci beaucoup. Donc, bonjour. Donc, effectivement, le lien est tout fait avec cette question de Big Brother. Est-ce qu'il y a des juristes dans la salle ? Super. Est-ce qu'il y a des consommateurs ? Tout le monde, a priori. Hein. Voilà. Donc, je vais éviter deux travers, parce que je vais plutôt m'adresser aux consommateurs, mais a fortiori aux juristes, bien sûr. Celui d'être trop juridique dans mon propos. Hein. Je vais essayer d'être très claire. J'ai même fait des jolies images. Donc, voilà. Donc, la question, c'est « to be or not to be connected ?» Alors, sous cette question très large, je suis connectée, suis-je en danger ? Je vais vous parler des objets connectés sous l'angle données personnelles et vie privée. Car si celle-ci a pu être désignée d'anomalie, comment ça marche ce truc ? On va le faire à l'ancienne. Hop. Si celle-ci a pu être désignée d'anomalie par un des responsables de Google, nous juristes pensons qu'elle existe tout à fait. Et c'est d'ailleurs un droit fondamental, un de vos droits fondamentaux en France et en Europe. Alors, on en a parlé tout à l'heure, la question n'est plus est-ce que les objets connectés sont un marché d'avenir, mais combien d'argent ils vont nous rapporter et combien ils seront d'ici à 2020. Alors moi j'ai pris l'étude la plus récente, alors finalement elle est un peu en deçà de ce qui a été cité par Rodolphe. Mais voilà, il y a une semaine, on nous annonçait 28 milliards d'objets connectés d'ici à 2020 et un marché qui représente quand même 7000 milliards de dollars. Donc la question n'est plus à poser et ça s'explique. Ça s'explique parce qu'il y a des avantages indéniables. Et je vais donner deux cas qui ne peuvent faire que l'unanimité, je pense. Celui de la sécurité personnelle. Alors on a par exemple l'entreprise WAR, qui a développé, pour vous mesdames, un petit objet connecté qui est un bijou, qui se clipse par exemple sur votre sac à main. Et si un charmant jeune homme vous agresse, non seulement il va faire un petit bruit sonore qui risque de le faire fuir, mais en plus il va alerter les secours. Pareil pour les hôpitaux. Alors, je pense que le sujet sera abordé cet après-midi. On a Vital Connect qui a créé un petit patch pour les patients à risque. Et en cas de crise cardiaque ou juste de rythme cardiaque anormal, les médecins seront prévenus. Donc, c'est super. Pour les voitures connectées, on a maintenant le dispositif e-call qui est obligatoire à partir de 2018 plus précisément. Et donc, s'il y a un accident de voiture, la voiture est géolocalisée et les secours arriveront immédiatement. Un tel système d'appel automatique des secours est également disponible sur certaines Apple Watch. Mais aussi pour les juristes et les avocats que nous sommes, la justice se sert de ces objets connectés. Alors, tant au niveau de l'enquête, puisque par exemple, les policiers, depuis la loi de géolocalisation de 2014, peuvent utiliser les objets connectés pour géolocaliser quelqu'un, mais ce n'est pas spécifique à la France. Vous avez peut-être entendu la petite anecdote aux États-Unis, Siri a permis à des enquêteurs d'élucider un meurtre, puisqu'un garçon a été très intelligent, il a demandé à Siri où cacher le corps de son colocataire. Donc les policiers ont retrouvé, ont utilisé le smartphone pour élucider ce meurtre, grâce aussi à la lampe torche d'ailleurs. Mais c'est aussi au stade de la preuve et du procès, puisque, par exemple, on peut tout à fait imaginer, dans les domaines où la preuve est libre, donc notamment en droit pénal ou en responsabilité routière, hein, par exemple, ou médicale, qu'on pourrait utiliser un objet connecté pour prouver, je ne sais pas, par exemple, que votre activité cardiaque prouve l'agression ou que vous n'étiez pas sur les lieux d'un vol. Au Canada, par exemple, l'année dernière, des avocats ont voulu utiliser un bracelet type Fitbit pour prouver que leur cliente, ne pouvait, qui était coach sportive par ailleurs, ne pouvait plus exercer son activité. Et voilà. Et en fait, on voit qu'ils utilisaient l'objet connecté à la place d'un rapport médical. Donc de très belles perspectives, mais aussi des nouvelles peurs. Des nouvelles peurs, et les Français sont, semble-t-il, très peureux, comme l'a révélé IFOP l'année dernière, puisqu'ils ont un regard inquiet. Et donc finalement, ces peurs, elles vont freiner l'appropriation des objets connectés, et c'est indispensable au succès de l'IoT. Là, on va au-delà des questions philosophiques qui seront abordées ou éthiques, mais vraiment pour réussir ce business, de gagner la confiance des utilisateurs. Donc, je ne vais pas vous citer les chiffres, vous les voyez par vous-même, mais on voit qu'il y a quand même des réticences et de réelles peurs du public. À titre d'exemple, 25% seulement des Français pensent que les données appartiennent à son émetteur, d'autres pensent que ça appartient au système d'exploitation, d'autres ne savent pas. Et donc, les données sont au cœur des objets connectés. Hein. Rodolphe l'a très bien démontré. Votre objet, il est intelligent parce qu'il se nourrit de données. Et c'est pas grave, c'est normal, c'est le but de l'objet. C'est juste qu'il faut bien le faire. Et donc, je vous propose une typologie de données collectées. Alors, c'est subjectif, mais on peut distinguer les données identitaires, donc votre nom, votre prénom, votre lieu de naissance, des données de contact, votre identifiant sur Skype, sur Facebook, comportementales, les achats que vous faites sur le site d'H&M ou sur Darty, les sites internet que vous consultez, les vidéos que vous aimez, et enfin vos données de géolocalisation, vos données GPS. Alors, cette typologie, elle n'a pas d'incidence à proprement parler. La seule catégorie de données qu'on distingue vraiment, c'est les données sensibles. Donc, par exemple, votre appartenance syndicale, vos origines raciales ou vos opinions politiques qui, elles, font l'objet d'un régime juridique renforcé. Alors finalement, la donnée, c'est le nouveau pétrole. Hein. C'est le pétrole du 21e siècle. La différence avec le pétrole, c'est qu'en plus, elle est renouvelable et pour partie inépuisable. L'Institut Montaigne, c'est un institut de réflexion qui donc a livré un rapport très intéressant à ce sujet. C'est pour ça qu'on dit que la data, le big data, c'est le nouvel or noir. Et donc, à horizon 2020, pour parler encore d'argent, hein, je suis désolée, c'est 1 000 milliards d'euros que représentera le marché européen des données personnelles. Et comme le disait Rodolphe, la plus grosse partie des données viendra de l'usage des objets connectés. Donc plus même que les réseaux sociaux et compagnie. Alors, comment on se fait de l'argent avec la donnée ? Soit on la monétise, donc on va la vendre, on va la monétiser. Soit on a une meilleure connaissance du client sur la base de facteurs quantifiables et personnalisables. Et on va pouvoir faire aussi de l'analyse prédictive. Pour prendre un exemple qui n'est pas sur le domaine des objets connectés, mais vous explicitez ce que j'entends par analyse prédictive. Vous connaissez sûrement tous Netflix. Ce qui fait la valeur de Netflix, c'est qu'il est capable de vous personnaliser son offre et de savoir ce que vous aurez envie de regarder. Bon, bah, c'est pareil, l'analyse prédictive, c'est vraiment anticiper vos besoins de consommateurs. Et enfin, l'objet connecté, il peut devenir un canal de vente lui-même et donc vous vendre d'autres choses que ce pourquoi vous l'aviez acheté à la base. On arrive dans le cœur de mon sujet. Quel enjeu d'un point de vue du droit ? Alors, je vais commencer par trois cas concrets. Peut-être que vous avez entendu parler de ces deux affaires, LG et Samsung. En 2013, il y a un blogueur britannique qui découvre que sa télé connectée LG l'espionne à son insu. Alors, une Smart TV, c'est quoi ? Une Smart TV, c'est une télé donc, qui est connectée à Internet. Hein, vous pensez peut-être à la Apple TV. Donc, vous pouvez non seulement regarder la télé comme avant, donc ça reste un terminal de réception, mais la télé devient aussi un émetteur. Donc, par exemple, vous pouvez skyper sur votre télé. Et qu'est-ce qu'il découvre ? Il découvre que la télé, alors qu'il n'y a pas consenti, enregistre les programmes qu'il regarde, voire même conserve les fichiers qu'il connecte avec sa clé USB sur sa télé. En 2015, c'est un activiste américain qui pointe du doigt cette fois Samsung, parce que dans les petites conditions générales de Samsung, il y a écrit en tout petit que vos conversations personnelles peuvent être enregistrées au titre du système de reconnaissance vocale. Ça fait un peu tâche. Alors depuis, ils ont un peu modifié leur politique, mais ça reste très obscur. Et en fait, c'est ça hein, le problème souvent, c'est que c'est pas vraiment, je vais paraître un peu cool entre guillemets pour une juriste, c'est pas vraiment ce qu'on va faire de vos données, parce que bien sûr que tout le monde n'est pas Edward Snowden, etc. Mais c'est plus que les entreprises ne sont pas assez transparentes avec vous et soyons honnêtes, vous n'allez pas forcément lire 50 pages de conditions générales. Cas numéro 2, vous avez peut-être entendu parler il y a deux semaines. Amazon lance le Dash Button en France. Le Dash Button, c'est trop bien, parce que c'est un petit bouton à 4 euros que vous collez sur votre machine à laver. Et quand vous avez plus de lessive, au flemmard que vous êtes peut-être, vous avez juste à appuyer sur le bouton. Ça vous envoie une notification sur votre téléphone et la lessive est commandée. Donc pas besoin d'aller sur le site d'Amazon. Problème, Amazon, c'est pas Gandhi, hein, il enregistre vos préférences et habitudes de consommation comme il le fait déjà sur son site via des cookies. Et surtout, vos données deviennent piratables. Et ce service, il avait déjà été lancé aux États-Unis l'an dernier. Et il y a un informaticien ou un expert, je ne sais plus exactement, qui avait prouvé qu'on pouvait pirater assez facilement, finalement, ce système et commander complètement autre chose. Donc voilà. Et cas numéro 3, les assureurs sont très au fait des objets connectés et c'est très important hein, qu'ils s'insèrent sur ce segment pour pas être désintermédiés par Google ou d'autres plateformes. Et donc, ils proposent différents seuils de services connectés et notamment le premier seuil, c'est de vous permettre de baisser vos cotisations et polices d'assurance hein, jusqu'à moins 30, moins 40% en montrant que vous êtes un super conducteur. Alors aujourd'hui, c'est plutôt bien. En plus, c'est une option, donc rien ne vous oblige d'y souscrire. Le problème, c'est les perspectives à terme, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que demain, si je suis pas un super conducteur, je paierai plus cher, alors même que je veux pas forcément qu'on sache comment je conduis. Et d'ailleurs, ça peut être aussi ramené pas qu'aux voitures, hein, mais à la forme, à votre santé. Est-ce que demain, votre assureur va regarder si vous surveillez votre poids, si vous êtes bien en forme ? Et faire de vous un client à risque. Donc c'est vraiment une histoire de qu'est-ce qui peut les travers, voilà, que ça peut entraîner. Et donc on distingue aisément qu'il y a quatre grands types, j'ai envie de dire, de risques pour vos données personnelles et votre vie privée. C'est un manque de contrôle et le fait que l'interlocuteur en sait plus que vous. Donc une absence de consentement de votre part éclairé en tout cas. Des usages secondaires qui soient différents du but initial auquel vous avez même consenti, parce que toute la valeur du big data, c'est ça le problème, hein, quelque part il y a une contradiction, un paradoxe, c'est que c'est justement d'utiliser des données pour des usages qu'on n'avait peut-être même pas imaginés à la base, mais bon, du coup il y a un problème. Et enfin, le profilage et le ciblage publicitaire intrusif. Donc voilà, vous ne comprenez pas, mais demain, on vous prospecte parce qu'on a vu que vous étiez un super coureur grâce à votre bracelet Fitbit. Et donc, il y a un autre problème, c'est la sécurité. Et là, c'est encore plus grave parce que c'est indépendant de la volonté du fabricant ou de l'entreprise. On sait que les objets connectés sont très vulnérables, jusqu'à aujourd'hui, mais c'était pas l'objectif principal d'ailleurs des fabricants et des autres intermédiaires. Mais il y a des gros problèmes, et c'est des problèmes classiques hein, de système d'information. Par exemple, on va rendre indisponible votre objet, vous ne pourrez plus l'utiliser. On va le rendre malveillant, donc votre voiture, Interpol s'est même dit que ça pouvait être les nouveaux véhicules pour des attentats terroristes. Super, on a même pu trouver de kamikazes tarés pour se tuer. L'intégrité et l'authenticité, le fonctionnement de l'objet va être altéré. Donc, par exemple, il y a une anecdote rigolote, il y a un babyphone aux États-Unis qui s'est mis à insulter le bébé, donc les parents étaient très rassurés. La confidentialité, on va intercepter l'information lors de son recueil. Donc, il y a eu des exemples récents hein, d'attaques, de cyber-attaques. Et donc, c'est très embêtant aussi parce que aujourd'hui, vous ne voulez pas que votre photo soit sur les réseaux sociaux. Demain, avec les objets connectés, imaginez ce qui peut se passer. Il y a des règles. Alors, il y a des règles aujourd'hui. Pour les juristes, vous connaissez sûrement, mais peut-être même pour les non-juristes, la loi informatique et liberté. On a été très précurseurs en France, puisque cette loi elle date de 1978, en réaction à un projet gouvernemental qui s'appelait Safari. Donc cette loi, elle pose des grands principes a priori simples. Et l'idée, c'est toujours de se demander quelles données sont collectées, pour quelles finalités, quels usages, pendant combien de temps. Et aussi l'histoire du consentement, c'est-à-dire avoir recueilli le consentement de la personne. Ça, c'est vraiment au cœur de la loi, même si au final, c'est souvent théorique, il faut l'avouer. Et voilà, donc la collecte, en fait, pour résumer, elle doit être loyale, licite. Donc pour une entreprise, ça va se traduire par « je ne collecte que ce qui est nécessaire ». Pour l'objet connecté. Les durées, elles ne sont pas fixées par la loi, mais la CNIL donne des guidelines assez précises et est là pour accompagner les professionnels. Et il y a une autorisation même, donc un régime renforcé, comme je le disais, pour les données sensibles, ce qui est le cas aussi des données de santé. Donc la CNIL, hein, la Commission nationale informatique et liberté, qui est une autorité française référente sur ce sujet. Alors le problème, c'est bien, hein, mais c'est un problème aussi pour le secteur privé ou public qui collecte des données, c'est que la définition de la donnée, elle est large. La donnée personnelle, elle va s'opposer à la donnée anonyme. Mais finalement, c'est toute information directement ou indirectement identifiante. Donc le nom, ça paraît une évidence. Le numéro de téléphone, ça paraît une évidence. Parce que vraiment, vous allez pouvoir me contacter, m'identifier directement. Mes achats ou les vidéos que je regarde sur Internet, ça paraît moins évident. Et pourtant, aujourd'hui, l'anonymat, il est quasiment impossible. Il y a plein de chercheurs qui ont prouvé qu'on peut très facilement, en croisant quelques données, découvrir qui est qui. Et donc, c'est pour ça que le G29, qui est un peu la CNIL européenne, qui rassemble toutes les CNIL d'Europe, dit bien que la donnée personnelle, c'est aussi celle qui est utilisée pour vous profiler, qui est utilisée pour vous évaluer. Et que et ça c'est la loi aussi qui le dit, pour déterminer ce qui est une donnée personnelle, il faut bien regarder tout ce que le responsable de traitement a dans ses mains, ou en tout cas pourrait avoir à proximité, pour identifier. Et donc du coup, ça rend l'application un peu complexe de la loi. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous le dis, il y a un changement d'échelle. Les objets connectés, on est dans une connexion permanente. S'il y a 7 objets par personne en 2020, il n'y a plus de données anonymes, hein, clairement. La santé mobile, elle pose des questions aussi, parce que mon bracelet, a priori, ce n'est pas des données de santé au sens juridique du terme, puisque c'est juste, par exemple, mon nombre de pas. Donc on appelle ça de la donnée bien-être. Le problème, c'est que, oui, mais bon, du coup, mes données bien-être, elles ne sont pas protégées, et c'est un peu injuste. Donc ça pose des questions. Il y a aussi la question de la complexité du système de recueil de consentement, parce qu'on veut prendre le consentement de la personne, mais on veut aussi faire les objets les plus ergonomiques possibles. Donc comment est-ce qu'on fait pour recueillir le consentement de la personne ? Et enfin, il y a plein d'intervenants. Ça va de la plateforme logicielle, donc aux fabricants. Donc tout ça pose des questions. Et parfois, les principes sont souvent théoriques, méconnus, voire mal appliqués. Et aujourd'hui, la CNIL fait au mieux des mises en demeure, mais il n'y a pas tant de sanctions. Quant au piratage, on a une loi aussi, on a la loi Godefrin, qui est là pour prévenir le piratage. On a le code pénal pour l'escroquerie. Je parle de l'escroquerie parce que, par exemple, on a des ransomware qui peuvent être mis dans un objet connecté. Ça a été montré cet été avec un thermomètre. Donc, tout simplement, votre objet connecté va bloquer vos données. Et puis, bah, si vous voulez le réutiliser, vous me donnez de l'argent. Donc, c'est super. Et aussi, la vie privée. J'ai cité le babyphone tout à l'heure. Le fait qu'un objet enregistre vos propos privés à votre insu, bah, c'est aussi une atteinte à la vie privée qui est réprimée par le code pénal. Donc, on a un arsenal juridique. Le problème, c'est qu'il n'est pas forcément très à la page du numérique et que le droit doit s'adapter un petit peu. Et ça, il y a une réelle prise de conscience et il y a des réels efforts. Et alors, le texte qu'il faut que vous connaissiez, qui vient d'être adopté, c'est le nouveau règlement sur les données personnelles qui va venir remplacer, en tout cas pour les dispositions qui changeraient, la loi de 78 en 2018. Donc il a été adopté l'an dernier. Et un règlement pour les juristes, vous le savez, directement applicable dans toute l'Europe. Donc ce règlement, il va venir se substituer à une directive de 1995 qui était jusqu'ici le cadre référent, qui globalement impose les mêmes principes que la loi de 78 et qui va essayer vraiment de rendre les individus ce qu'on appelle « empowered », c'est-à-dire vraiment en maîtrise de leurs données personnelles, tout en quand même simplifiant aussi le cadre pour les entreprises, même si en vrai, en interne, il augmente quand même leurs responsabilités. Donc quelques exemples, hein, j'ai pas tout cité, mais par exemple pour vous, les individus, vous allez pouvoir exiger que vos données soient portables pour changer de prestataire plus facilement. Donc on vous restitue toutes vos données et vous allez les donner à quelqu'un d'autre ou vous les gardez. Vous pouvez refuser le profilage, vous pouvez exiger le fameux droit à l'oubli numérique, que vos données non seulement soient effacées, mais ça à la limite ça existait déjà, mais surtout qu'elles soient désindexées de ce cher Google par exemple, parce que vous ne voulez plus qu'il y ait des données compromettantes. Pour les entreprises, on va avoir la consécration de deux grands principes, le privacy by design et la security by default. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la protection de la donnée, elle est intégrée de bout en bout. Donc que dès la conception de l'objet connecté, on doit réfléchir en termes de vie privée. On doit vraiment réfléchir à comment est-ce qu'on minimise les données collectées, comment on recueille le consentement justement de manière ergonomique. Donc ça, c'est vraiment un changement de paradigme qui est assez intéressant. Il faut voir en pratique comment ça va se faire, hein, mais c'est intéressant. Des analyses d'impact pour les cas sensibles, tenir des registres pour prouver qu'on respecte le règlement, surtout qu'il n'y aura plus de déclaration, donc c'est important de pouvoir prouver qu'on respecte. Notifier les utilisateurs quand il y a un piratage, donc autant de principes très intéressants. On définit aussi le consentement de manière plus précise, il faut vraiment que ça soit un acte positif de l'utilisateur. Et on met fin, a priori, notamment au problème de cette donnée bien-être, puisque la définition de la donnée santé est définie largement, puisque c'est indépendamment de sa source. Avant, la donnée de santé, c'était celle du médecin, de l'hôpital. Demain, ça peut être celle, a priori, du fabricant d'un bracelet Fitbit. Alors, juste un petit point rapide, parce que c'est très important, vu qu'on est dans un monde globalisé. Vous allez me dire, en dehors de l'UE, quand mes données, parce que là, c'est très bien, vous me parlez de la sécurité dans l'Union européenne, mais si mes données, elles sont transférées, et c'est très fréquent, à un sous-traitant en dehors de l'Union européenne. Alors là, il y a un cadre déjà, et il est maintenu. Hein. Il faut que le pays de destination assure un niveau de protection adéquat. L'adéquation étant décidée par la Commission européenne. Sinon, il n'y a pas de transfert. Donc, un niveau de protection adéquat, c'est par exemple en Suisse. Il y a le cas des États-Unis aussi, Alors, je vais revenir dessus dans deux secondes. Et il y a d'autres possibilités, c'est d'avoir recours au contrat, en gros, ou à des codes de conduite internes quand c'est des flux de données au sein d'un même groupe, pour que ça soit plus simple, entre guillemets. Les États-Unis, vous avez peut-être entendu parler de ça, c'est une petite actu récente qu'il faut quand même avoir en tête. Il y avait un accord depuis 2000 qui s'appelle le Safe Harbor, qui assurait ce niveau de protection adéquat. Et donc, c'était assez simple pour les entreprises parce qu'elles cochaient la petite case Safe Harbor quand elles faisaient leur déclaration CNIL et elles pouvaient transférer leurs données. Seulement, il y a un étudiant qui, je dois l'avouer, forge mon admiration, Max Schrems, un étudiant autrichien, qui a porté plainte auprès de la CNIL irlandaise parce que dans la continuité des révélations d'Edward Snowden, dont vous avez sûrement entendu parler, sur le programme de surveillance de la NSA américaine, bah, il s'est rendu compte que Facebook, Yahoo, Microsoft collaboraient avec le gouvernement américain et que les données, le Safe Harbor, en fait, bah, c'était un peu peanuts, hein, ça ne protégeait pas trop. Et donc, il a quand même réussi à aller jusqu'à la Cour de justice de l'Union européenne. Et la Cour de justice lui a donné raison, puisqu'elle a invalidé le Safe Harbor. C'est pas mal, hein. Depuis, il est avocat, et je pense même que Google travaille avec lui. Donc voilà. Et du coup, bah, on a mis en place un nouveau cadre, parce que les entreprises, elles étaient un peu dans une situation d'insécurité juridique. Et c'est le Privacy Shield. Donc, a priori, le Privacy Shield est plus protecteur pour les citoyens européens qui ont même des recours, justement, s'il y avait des cas comme celui de la NSA. Bon, après, Edward Snowden ou Max Schrems ne partagent pas l'avis de la Commission européenne et des États-Unis et disent que clairement, ils vont refaire des recours. La cybersécurité aussi a été renforcée. Alors très rapidement, on a la directive Network and Information Security qui oblige vraiment à adopter des mesures techniques de sécurité. D'ailleurs, le règlement européen aussi, hein, mais là, on est encore plus à une grande échelle. Après, il va falloir voir comment ça va être transposé, parce que pour le coup, c'est une directive, donc c'est à chaque État de les transposer dans leur système juridique. Et on a aussi une nouvelle directive sur les services de paiement. Enfin, il y en avait déjà une, mais elle a été donc modernisée, pour bien prendre en compte tous les nouveaux prestataires de paiement et assurer la sécurité des données bancaires. Alors, pour finir, perspective. Alors là, je sors un peu du cadre, ce qu'on appelle juridique dur, que en tant que consultante juridique affaires publiques, je suis tous les jours, mais je suis aussi tout ce qui se passe du côté du soft law. Alors, la Commission européenne réfléchit notamment à un label pour la sécurité de l'IoT, en prenant exemple sur ce qui existe aujourd'hui pour la consommation énergétique. Donc aujourd'hui, par exemple, sur une machine à laver, vous avez un petit label qui vous dit c'est le niveau de consommation énergétique. Donc sur un objet connecté, ça pourrait être est-ce qu'il est sécurisé ou pas. Donc c'est vrai que ça peut parler directement au consommateur, donc ça peut être une idée. On a aussi, on peut se poser la question d'un droit au silence des puces. À l'heure où dans la loi travail, on a reconnu le droit à la déconnexion du salarié, on pourrait se dire aussi que mon objet, je ne suis pas forcément obligée d'être tout le temps tracé, profilé. Le droit au silence des puces a été reconnu en 2008 à l'échelon européen, mais jusqu'ici, il n'a pas vraiment non plus de valeur. Et c'est vrai qu'on peut se demander, parce que finalement, il faut quand même avouer que le seul objet connecté vraiment sécurisé, c'est celui qui est éteint. Mais on doit pouvoir trouver un juste milieu. On a aussi l'autorégulation professionnelle, puisqu'il y a une réelle prise de conscience hein, des entreprises, des acteurs publics comme privés d'ailleurs. Récemment, l'ARCEP a publié, l'ARCEP qui est un peu le régulateur des télécoms, mais qui est très, investi sur le sujet des objets connectés, a sorti un livre blanc. L'autorégulation professionnelle, c'est aussi tout ce qui est normes ISO, les associations d'entreprises justement qui réfléchissent à comment avoir des systèmes de référence communs pour la sécurité de leur réseau et de leurs objets. C'est aussi les PAC de la CNIL qui aident les professionnels, et il y en a de plus en plus donc, pour les objets connectés, pour vraiment leur donner toutes les cartes en main dans le traitement des données personnelles des objets connectés des consommateurs. Et enfin, un petit exemple dont je voulais parler, est-ce que vous ne pourriez pas devenir le trader de vos données perso aussi ? C'est-à-dire qu'au lieu qu'on soit dans ce qu'on appelle le CRM, on passe à un système VRM, Vendor Relationship Management, et que donc les entreprises vous restituent vos données qui est une espèce de coopération pour que vous voyez vous-même quoi en faire, ce qui est collecté sur vous, et ça donne des nouvelles perspectives économiques. Et il y a des programmes, ce qu'on appelle donc le mouvement Self Data, qui ont été lancés notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France. En France, c'est un projet qui est porté par la FING, qui est une fondation, avec le projet Mes Infos, et qui a mis en place des expérimentations avec des entreprises partenaires. Et c'est très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'au-delà du côté « c'est cool » entre guillemets pour le consommateur, il y a des réelles perspectives économiques, parce qu'en travaillant à deux, bah, on est plus fort. Voilà, merci, soyez prudents. Quelques petits conseils pratiques pour sécuriser vos objets connectés, éviter d'être tracés.
Merci beaucoup Nina. Donc pour faire aussi le lien avec ce qu'a dit Rodolphe Vozel tout à l'heure, l'aspect juridique, donc comme le dit si bien Nina, avance après l'avancée des technologies. Donc les technologies arrivent, on découvre le problème et plusieurs années plus tard, les solutions sont proposées. Donc le programme Contraplan État-Région numérique dont a parlé Rodolphe contient une composante interdisciplinaire importante avec la participation de juristes, ce qui permet aux juristes aujourd'hui de réfléchir sur le futur des lois, le futur de la jurisprudence, donc des chercheurs juristes, en même temps même que nous, technologues, développons les technologies, notamment autour des objets connectés, autour de l'open data, autour de l'e-administration, autour de l'e-éducation, autour du e-patrimoine, etc., de la e-culture, etc. Donc au niveau de la région, il y a également au niveau de la recherche régionale une prise de conscience qui fait qu'on essaye d'avancer ensemble pour éviter qu'une directive ou qu'une loi soit changée 40 ans plus tard. Parce que vous avez cité une loi de 1978 qui est remplacée mais par une loi qui n'entrera en vigueur qu'en 2018. Donc la technologie avance vite, les juristes également essayent d'avancer vite. Et merci beaucoup Nina encore pour ça. Donc peut-être une ou deux questions avant qu'on fasse une pause. Toujours la première et la plus difficile.
Les étudiants, pas de questions ?
J'ai une question moi-même donc pour Nina. En discutant justement avec une juriste qui participe au CPER numérique, donc en disant Google utilise nos données personnelles, quid de la loi européenne sur les données personnelles, et elle m'a expliqué que, en fait, quand on clique sur « j'accepte », les données ne deviennent plus personnelles. Et par conséquent, en fait, je suis, en faisant ça, j'offre mes données pour avoir un service, et donc je n'ai plus de contrôle sur ces données. Elle m'a également expliqué que la seule alternative était, ben justement, c'est pour avoir plus de détails et d'autres points de vue, que la seule alternative aujourd'hui qui se présente à l'Europe, c'est aussi le droit à la concurrence, qui est justement ces lois-là qui aujourd'hui contraignent certaines grosses entreprises qui ont un trust, possèdent les données d'un peu tout le monde, à réduire donc, leur marge de manœuvre avec nos données. Est-ce que vous ou le collègue juriste pouvez nous donner plus d'éléments sur ces aspects-là justement pour nous éclairer?
Alors, c'est une question très intéressante. Donc, pourquoi quand vous cliquez, vos données restent personnelles, hein. C'est juste qu'un traitement de données personnelles est licite dès lors qu'on a le consentement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, cliquer, c'est un acte positif. Cocher une case, c'est un acte positif. Donc, voilà. Après, ça ne veut pas dire que mes données ne sont plus personnelles. La seule chose qui rend plus personnelles mes données, c'est qu'elles soient anonymes, chiffrées, voilà. Différentes manières. Sur alors déjà, je voudrais dire une première chose par rapport au retard du droit. Pour le coup, donc, comme je le disais, je travaille au sein d'un cabinet de conseil et affaires publiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cet après-midi, je vous quitte parce que je suis à l'Assemblée nationale. On travaille on suit l'élaboration du droit. Et c'est vrai que c'est complexe et j'ai pas eu le temps de revenir sur la loi pour une République numérique qui a été adoptée en France et qui anticipe quelques points du règlement européen. On voit à quel point les débats sont vifs sur ces questions et à quel point, tant au niveau des données personnelles que du droit de la concurrence, c'est très compliqué d'agir à l'échelon national quand on fait partie de l'Union européenne. Je ne suis pas en train de dire que l'Union européenne, ce n'est pas bien, très loin de là. Je dis juste que forcément, le temps est encore plus long parce qu'il y a 28 États qui doivent se mettre d'accord et qu'on est quand même les plus protecteurs de nos données personnelles, de la culture aussi, vu que je travaille sur les questions culturelles. Donc voilà, donc ce n'est pas simple. Et aujourd'hui, clairement, la CNIL n'est pas non plus super armée pour vous dire l'amende maximale de la loi de 78, c'est 150 000 euros. 150 000 euros pour Google, c'est 1 euro pour vous. Enfin, même pas. Demain, le règlement européen, c'est quand même 4% du chiffre d'affaires mondial et 20 millions d'euros. Alors après, je ne sais pas si concrètement ça arrivera, mais c'est vrai que ça fait plus peur, quoi, pour une entreprise. Et au-delà de l'argent, qui n'est pas forcément un problème pour certains acteurs, c'est l'irréputation, c'est la réputation tout court. Forcément, si les consommateurs sont inquiets, ils n'utilisent pas votre service. Donc c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que c'est important. Sur le droit à la concurrence, c'est effectivement un droit qui va être là aussi pour cadrer. Par exemple, Google est aujourd'hui sous un peu sous la loupe de la Commission européenne pour plusieurs services, notamment Google Shopping, etc. Et effectivement, si on prouve qu'il y a des problèmes en termes de concurrence parce qu'il privilégie ses offres à celles de ses concurrents, on va pouvoir le sanctionner. Mais on ne va pas le sanctionner pour l'usage des données personnelles des utilisateurs. On va le sanctionner pour ses pratiques envers d'autres acteurs. Mais c'est un moyen, effectivement, de le contraindre. L'échelon, finalement, national le plus accessible, on l'a vu avec la loi République numérique, c'est le droit de la consommation qui reste vraiment entre nos mains, contrairement au droit de la concurrence. Et c'est pour ça que, par exemple, la loi pour une République numérique impose à Google d'être plus transparent sur tout, sur même ses liens capitalistiques avec des acteurs, sur le traitement qu'il a des données. Je peux laisser M. Zollinger prendre le relais s'il avait un propos à ajouter.
Non, vous avez parfaitement répondu à la question. Je voulais juste peut-être compléter sur un ou deux points. Même quand on a manifesté son acceptation, donc Nina a bien rappelé que la donnée restait personnelle, et ce sont aussi des droits des utilisateurs sur lesquels Nina, qui a été présentée dans l'exposé de Nina, qui permettent de conserver un contrôle malgré tout. Donc je pense à certains principes, le principe de finalité, qu'est-ce qui va être fait de notre traitement, le principe d'exactitude, le droit à la rectification des données, donc le droit d'accès. Donc tout ça, ça nous permet, quand bien même on a donné notre autorisation, après, si le cadre qui est défini par la loi et par l'autorisation qui est conférée, si ce cadre-là n'est pas respecté, on a des voies de recours. Donc c'est pas la porte ouverte à... c'est pas une perte totale de contrôle, même s'il y a cet écart entre ce que...
La loi et...
Voilà.
D'ailleurs, pour Google, j'ai envie de dire, ils sont quand même bon élève, entre guillemets, par la suite, puisque la CJUE, le droit à l'oubli dont je parlais tout à l'heure, en fait, existe depuis 2014, puisque la Cour de justice de l'Union européenne a dit que Google était un responsable de traitement. Il traitait des données personnelles, ce qui n'était pas évident, mais... a été reconnu. Et du coup, Google reçoit un tas de demandes aujourd'hui de désindexer des liens. Une photo qui vous gêne dans Google Images, un article de presse qui vous gêne également. Et c'est ça qui est consacré aujourd'hui au niveau du règlement européen et qui prouve bien que même quand j'utilise Google, je conserve un contrôle. Alors certes, après, c'est un équilibre, hein, parce que si c'est un article de presse, il y a aussi la liberté de la communication à prendre en compte et d'autres choses comme ça. Mais voilà, il y a une réelle maîtrise des individus qui, en tout cas, se sent de plus en plus, et c'est pour ça que j'interviens aussi ici, pour que les gens en soient conscients sans paniquer non plus. C'est pas l'idée.
En effet, c'est ces éléments-là sur les données web qui peuvent influencer après sur les données personnelles issues d'objets connectés. Et justement, ce genre d'éclairage peut nous permettre, nous, chercheurs en technologie, de bien concevoir les solutions qu'on propose derrière comme solutions techniques en réponse à des directives ou autres. Il y a une dernière question là, et je pense qu'après, on ira...
Je vais essayer d'être beaucoup plus court. Donc, vous le mentionniez... juste peut-être un peu avant, peut-être qu'on peut utiliser des moteurs de recherche ou des systèmes un peu alternatifs qui peuvent éventuellement nous protéger un petit peu plus. Donc j'essaie d'en utiliser depuis pas longtemps. Puis pareil, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on pourrait évoquer aussi rapidement, c'est là, quand on parlait de données, il y a deux types de données, celles qui sont utilisées à des fins commerciales. Effectivement, on se dit, bon, cette utilisation-là, j'ai bien envie de la contrôler, pas forcément, même si c'est pour améliorer des services. Mais d'un autre côté, il y a des données qui peuvent être utilisées pour... je dirais pour de l'intérêt général, par exemple les données de cartographie, ce genre de choses, et qui elles, pour le coup, sont d'ordre de, voilà, sont de l'ordre de l'intérêt général. Le problème, c'est où est-ce qu'on fait le lien entre les deux. Et je sais qu'il y a des, c'était qui, je sais plus si c'était peut-être pas Mappy, c'était Waze, je crois, qui a fait des partenariats avec certaines villes justement pour à la fois améliorer leurs services et en même temps redonner des, refournir des données, donc public-privé. C'est des questions intéressantes, mais voilà. Je ne sais pas si vous voulez réagir sur ça.
Non, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Après, clairement, il y a un travail pour des services aussi importants qui se met en place avec la CNIL pour justement... l'idée, c'est jamais de freiner. Enfin, moi, je suis souvent en relation avec la CNIL. Et l'idée, c'est pas du tout de freiner les nouvelles technologies, surtout quand elles peuvent être aussi vertueuses. Donc, quand clairement il y a un intérêt général, c'est pas qu'on va pas on va faire fi de la loi, mais on va mettre en place. Et tout ça, ça passe aussi par un travail de discours. Je pense que les gens, il suffit de... Quand je prenais les pourcentages de tout à l'heure, les gens sont prêts hein, à partager leurs données. Pourquoi on s'enflammerait après tout de la collecte de données d'un objet connecté ou d'une ville connectée quand tous les jours on est tous sur... Enfin, tous, je regarde les gens de ma génération, sur Facebook. Non mais voilà, ma mère aussi est tout à fait sur Facebook. Donc pourquoi on s'enflammerait moins voilà. Et même les GAFA, moi je veux pas diaboliser les GAFA. Hein, certains sont mes clients. Il y a pas de, enfin, les GAFA font comme ils peuvent aussi pour traiter. Après, c'est juste, voilà, les perspectives, une fois encore, les déviances, un travail d'accompagnement, de discours qu'il faut améliorer pour que les gens soient en toute sécurité. Et en plus, récemment, les plus gros scandales, c'est limite les gouvernements. Quand je parlais d'Edward Snowden, c'est pas, enfin, c'est aussi les entreprises qui sont obligées, entre guillemets, de coopérer avec le gouvernement. Mais il y a des problèmes aussi au niveau du gouvernement. En France, ça a été la loi renseignement qui a fait débat, la loi actuellement suite au terrorisme. Voilà, il y a des questions qui, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et je pense que tout passe par le discours et des finalités claires et posées dès le départ, quoi.
Juste, ouais. Je pense qu'aussi des données qui peuvent être considérées comme anodines et poursuivre un intérêt général dans un premier temps, on n'a pas forcément idée de ce qu'elles peuvent aussi permettre dans un second temps. Et même en parlant de cartographie, eh bien, si la définition est suffisamment bonne, en piratant les données, on peut savoir si la maison est utilisée et donc éventuellement organiser des cambriolages ou des choses comme ça.
Donc, c'est une fichette qui pose beaucoup de problèmes alors que son objectif initial n'est pas grave, mais... clairement, après, c'est demain, si le gouvernement change, si on étend, c'est un simple décret, si on étend. Enfin, voilà, c'est toujours ça aussi avec les textes juridiques.
Parfaitement. En plus, l'exemple que vous avez cité de GPS, de localisation, cartographie, ça correspond à une des dernières lignes que nous avait montré Rodolphe. C'est une combinaison. Ça, c'est de l'objet connecté, parce que c'est du machine to machine. C'est votre téléphone qui contient l'application ou votre dispositif qu'on appelle GPS par abus de langage, qui envoie deux informations capturées, une information capturée à partir d'un satellite qui est le signal GPS, et une information sur l'accéléromètre. Et ça peut, si c'est détourné, ça peut nous apprendre des choses sur votre manière de conduire, ça peut nous apprendre vos trajets journaliers, etc. Après, peut-être que ce n'est pas les entreprises elles-mêmes qui, elles, les restituent même aux villes pour une collaboration, partenariat public-privé. Mais il faut les protéger d'une utilisation frauduleuse. C'est ça le challenge. Moi, je vous propose de continuer de discuter de tout ça lors d'une pause et on reprend dans combien de temps?
Dans 10 minutes. Merci à nos intervenants. Vous pouvez laisser vos affaires dans la salle, on va fermer la salle. Merci à tous.